Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir sur ce thème, qui n'est pas un thème très facile, mais qui est très très important aujourd'hui, d'essayer d'avoir un peu une vision juive, puisqu'on reçoit beaucoup beaucoup d'informations de l'extérieur, avec les radios, la télé, il s'est passé beaucoup de choses. Alors nous, on va essayer de comprendre comment est-ce que la Torah, elle veut qu'on regarde un petit peu ces événements. Pour ça, il suffit d'une chose très très simple. Comme vous le savez, une fois, il y a un rabbi très célèbre qui a dit que chacun, il doit vivre avec son temps, chaque juif, il doit vivre avec son temps. Ils ont dit, c'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha de la semaine. Quand on regarde la paracha, quand on regarde les choses dans lesquelles les périodes dans lesquelles elle se passe, simplement de regarder la Torah, mais seulement au lieu de la regarder, comme beaucoup font l'erreur, de la regarder avec un regard un petit peu historique, c'est-à-dire de se dire, bon, les choses elles se placent dans un certain contexte, à une certaine époque, si on enlève la Torah de son contexte historique, on enlève la Torah de son contexte temporel, d'un seul coup, la Torah elle devient intemporelle et elle répond à toutes les questions sur des générations et des générations et des générations. Alors regardez, c'est marqué au début de la paracha de Vaera, Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel Shakai ushmi Hashem lo nodarti lahem. Vous savez tous que quand HaKadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour sortir les bnei Israël d'Égypte, alors Moshe il a été chez Pharaon et Pharaon il a refusé. Non seulement il a refusé, mais en plus il a encore endurci, il a encore fait encore plus de mal aux bnei Israël. Donc les bnei Israël se sont plaints et Moshe Rabbeinu lui-même il s'est plaint à Hashem. Il a dit Lamar et Otala Amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Alors à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a répondu à Avraham, et c'est au début de la parasha de Vayera, il a dit, mais je ne comprends pas. Il a dit, Avraham et Yitzhak et Yaakov, je me suis montré envers eux, Bekel Shakai. C'est quoi Bekel Shakai? Shakai, c'est Shin Dalet Yud, c'est le nom qui est écrit sur la Mezouza. Ce nom, c'est quoi? C'est le nom avec lequel Hachem il s'est toujours adressé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit, Ushmi Hachem, et mon nom Hachem, et le nom Hachem, c'est quoi? C'est Yud Kevavke, le tétragramme. L'onodarti la M, je ne l'aurais pas fait connaître. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Bekel Shakai, avec le nom Shakai, Iftartim Aftachot, je leur ai donné des promesses. Ou Bekula namarti la M, Ani Kel Shakai. Et dans toutes ces promesses, j'ai dit au Avot, Avram Israël et Yaakov, je suis Shakai. C'est quoi Shakai? Ça veut dire, je suis Akadosh Baruch Hu, qui va dire des choses, mais qui ne va pas forcément les accomplir. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, tu auras la terre de Canaan. Maintenant, quand Abraham il a voulu enterrer sa femme, Sarah, il a fallu qu'il achète un terrain. Il n'a rien dit. Il a dit à Yitzhak, tu vas avoir la terre de Canaan. Il a eu des problèmes même pour avoir des puits d'eau. Il a eu des problèmes. Il a fallu qu'il se batte. Après, Yaakov aussi lui a dit, tu vas avoir la terre de Canaan. Et lui aussi, il a eu des gros problèmes pendant tout le temps qu'il était en Canaan. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on leur a donné une promesse. On n'a pas accompli cette promesse. Et on ne voit pas qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se sont révoltés. Ils n'ont rien dit. Ils ont accepté. Par contre, les Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit qui je suis, Ani Hashem. C'est quoi Hashem? Yudke Vavke, je suis celui, et il dit Rashi, celui qui tient ses promesses. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ushmi Hashem l'onodarti lahem, et le nom Hashem, donc je ne l'ai pas fait connaître à Avraham Yitzhak et Yaakov, mais je l'ai dit à toi, Moshe Rabbeinu, pour que tu dises au Béni Israël. C'est qui celui-là? Regardez bien. L'onodarti, l'oketiv kan. Regardez ce qu'il dit Rashi. C'est pas écrit, Hachem, il a dit, c'est marqué l'onodarti. C'est pas écrit l'onodarti. L'onodarti, en hébreu, ça veut dire je n'ai pas fait savoir. Il dit, et là, l'onodarti, je ne me suis pas fait connaître à eux. L'oikarti la embe minat amitit cheli, je ne suis pas fait connaître à Avraham Yitzhak et Yaakov avec ma qualité amitit. Attention. Qu'est-ce que veut dire le émet pour nous? C'est quoi le émet? Parce que pour Dieu, ça veut rien dire. Est-ce que Dieu, il va mentir? Donc c'est quoi le émet? Le émet, c'est quand nous, on perçoit quelque chose, on le comprend. Alors on dit que c'est adapté à nous, c'est émet. Quand c'est pas adapté à nous, c'est pas émet. J'ai un exemple. Le émet de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas notre émet à nous. Parce que nous, on comprend rien à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Le émet de Yaakov Avinu, c'est pas notre émet à nous. Imaginez Yaakov Avinu, il reçoit ses enfants pour les bénir à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire? La fin des temps. Parce qu'il voit devant lui la fin des temps. Alors avec Jmourou, il lui enlève de ça de la tête. Mais nous, quand on se lève le matin, on voit pas la fin des temps. On voit même pas ce qu'il y a derrière notre porte. Donc on n'a pas la même vision des choses. Donc puisqu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même émet. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici qu'Akadosh Baruch Hu a dit, je me suis pas adressé à Avraham Yitzhak et Yaakov avec Yudke Vavke, avec le tétragramme, c'est-à-dire avec Midat à émet. C'est quoi? C'est une Midat qui est adaptée à eux. Qu'est-ce que c'est le nom d'Hachem pour nous? C'est la perception qu'on a de Dieu. Ce qu'on perçoit de Dieu, parce que Dieu est d'accord de nous faire percevoir, c'est ça. L'onodarti, je me suis pas fait connaître. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se montre à toi des facettes. Et de ces facettes-là, tu sais comment il se conduit. C'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que quelqu'un, il aille chercher, il réfléchir comment il marche Dieu, c'est même pas la peine de rêver. Tu peux l'oublier, celle-là. La seule chose que tu peux avoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile un côté, et toi, tu le vois. Et ce que tu vois, c'est ce que lui, il est d'accord de te montrer. Maintenant, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu vois, moi, je me suis montré, dévoilé à Abraham, Isaac et Yaakov, comment? Toujours Shakai. Toujours. Ça veut dire quoi? Je les ai prévenus. Je leur ai dit, je vous préviens, à nickel Shakai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis quelqu'un qui va vous dire des choses, et vous ne les verrez pas s'accomplir. C'est pas la peine de vous énerver. Et jamais les avots, ils sont énervés. Jamais ils ont dit, comment on va s'investir pour une chose qu'on ne connaît pas le résultat? Ils n'ont rien dit. Le contraire. Les bénis d'Israël, ils sont en Égypte. D'accord? Et ils sont en plein esclavage. Akadosh Baruch Hu, comment ils se présentent à eux? Ani Hachem. C'est qui Ani Hachem? Celui qui accomplit ses promesses. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait Akadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'Avraham, Israël et Yaakov, il s'est présenté en tant que Kel Shakai? Celui qui ne tient pas ses promesses, forcément. C'est-à-dire, on ne voit pas l'accomplissement des promesses. Et pourquoi, pour les bénis d'Israël, il était obligé de dire Yud-Kevav-Ke? Il faudra qu'on comprenne ça. Après, nous, on va essayer de réfléchir. Nous, à notre niveau aujourd'hui, à quel niveau de perception on est d'Hachem? Est-ce qu'on perçoit Kadosh Baruch Hu en tant que Shakai ou en tant que Yud-Kevav-Ke? On va voir. Bien que dans la prière tous les jours, on dit le tétragramme, mais quelle est notre perception à nous? Alors, pour comprendre ça, c'est marqué dans le Ramban au début de la Parashat Shemot. Il dit le Ramban, pourquoi est-ce qu'on a amené d'abord le livre de Bereshit et ensuite le livre de Shemot? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné toutes les solutions. Tout ce qui va passer dans l'avenir, c'est ce qui va se passer avec ce qui s'est passé avec Avraham, Israël et Yaakov. Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il va donner dans le peuple d'Israël plus tard, ça ne sera que les suites et les conséquences de ce qui s'est passé avec Avraham, Israël et Yaakov. C'est-à-dire que Avraham, il est descendu en Égypte, alors les bénis d'Israël sont descendus en Égypte. Maintenant, Avraham, il est remonté d'Égypte, alors les bénis d'Israël aussi remontent d'Égypte. Vous comprenez ou non? Pourquoi? Aujourd'hui, avec la génétique, on comprend un peu mieux. Abraham, à l'intérieur de lui, il contient tous les descendants, tous les bénis d'Israël qui vont venir, ils sont en lui. Ils sont dans Yitzhak, ils sont dans Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a donné des événements qui ont été vécus par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors nous, on dit, assez avot siman lamanim. Les actes des pères, c'est des signes pour les enfants. Ça veut dire quoi, c'est des signes? Ça veut dire que tous les efforts qui ont été fournis par Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout ce qui a été vécu par eux, c'est en même temps les problèmes que vont avoir les bénis Israël dans les différentes étapes jusqu'à la fin des temps, mais c'est aussi les solutions qui sont données aux bénis Israël. C'est-à-dire que si quelqu'un il va analyser comment est-ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ils se sont conduits, il va savoir exactement comment il doit se conduire jusqu'à la fin des temps. Or, un des éléments que Kadosh Baruch Hu il a donné à Avraham, il lui a dit quoi? Italech lefanai veyetamim, va devant moi et sois intègre, sois entier. Maintenant, nous, on retient cet élément-là et on se dit, au lieu de regarder l'événement que Hachem, il a parlé à Avraham, il lui a dit, soit tamim tiyim Hachem, soit entier, on va prendre cet élément-là et on va se dire que Hachem, il a dit, il y a 2500 ans ou 3000 ans, il a dit à Avraham Avinu, un élément qui sera nécessaire pour ses arrière-arrière-arrière-petits-enfants, c'est nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez ou non? Essayez d'enlever la Torah de son contexte historique. Essayez d'imaginer qu'il y a un grand-père un jour, il a vu dans 19 générations, et il a dit, fais attention, il a dit à son fils, tu diras à ton fils, qu'il dise à son fils, que dans 19 générations, on aura des problèmes. Donc maintenant, quand Avraham Avinu, il a investi, il n'a pas dit des choses pour lui, parce qu'Avraham Avinu, il n'a pas de problème de tmimout, je ne sais pas si vous suivez le problème, il n'a pas de problème d'intégrité Avraham Avinu. Donc il a glissé un message dans la Torah, et ce message, il est pour qui? Il est pour nous. Donc nous, à nous de comprendre, comment est-ce que dans le temps, encore une fois, dans le temps réel et dans le temps absolu, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, les éléments qu'on a reçus, ils ne changent pas. Alors regardez ce qu'il dit le Rabbi Tzadok HaKohen. Donc le Rabbi Tzadok HaKohen, il a vécu en 1800 et quelques. Il a dit, la quatrième galoute, c'est-à-dire celle dans laquelle on est, elle va avoir deux pôles, l'œil et la bouche. L'œil et la bouche. Les problèmes de la quatrième génération, c'est l'œil et la bouche. Et la solution de la quatrième génération, c'est l'œil et la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire l'œil et la bouche? Maintenant, imaginez que le Rabbi Tzadok HaKohen, lui, il n'a pas connu la publicité. Il n'a pas connu les médias. Il n'a pas connu le design. Il n'a pas connu toutes les saletés qu'on voit dans la rue. Il n'a pas vu la force de vente. Il n'a pas vu tout ça, lui. Lui, il a vu un Zohar où c'est marqué que la quatrième galoute, c'est l'œil et la bouche. Qu'est-ce que c'est l'œil? L'œil, c'est la face extérieure des choses. Avec l'œil, vous ne voyez que la face extérieure des choses. Vous ne voyez pas l'intérieur. Aujourd'hui, un produit, vous le vendez avec son image. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un produit complètement pourri, mais pourri jusqu'à la fin. Mais il a une bonne communication. Vous faites une bonne publicité, il va se vendre. Vous donnez un bon designer, une belle voiture. Voilà, une belle voiture. Ouais. Tout le monde sait que c'est de la mauvaise qualité, mais elle est belle. Ils ont pris un designer italien, ils lui ont donné $1 million, il a dessiné une belle voiture. Le moteur, il est bidon. Tout le monde sait que les essuie-glaces, ils s'envolent quand tu dépasses 100 à l'heure. Tout le monde sait que les roues, elles sont voilées au bout de 100 km. Tout le monde sait que le carburateur, il n'a jamais dépassé 20 000 km. Mais elle est belle. C'est quoi ça? C'est la génération de l'œil. C'est pareil. Les Averroth, aujourd'hui, elles se font avec l'œil. Quelqu'un, aujourd'hui, il voit des choses dégoûtantes. Il a des magazines, il a des chaînes de télé, il a des sites internet. On n'a pas besoin, aujourd'hui, de faire des actes. Les gens, ils voient, ça suffit. Les gens, ils votent avec l'œil. Les gens, ils votent avec le virtuel. Ils ne votent pas avec le réel. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pareil. Aujourd'hui, quelqu'un, il est axé sur son image extérieure. Toute la mode, elle est basée sur l'image extérieure. Toutes les femmes, elles ont la maladie de White Watchers. Ouais, est-ce qu'elles vont rentrer dans les mensurations de la vedette ou non? Maintenant, ils ont des problèmes avec des jeunes de 18 ans qui tombent malades par anorexie. Ça veut dire qu'elles refusent de manger parce qu'elles ont peur de grossir. C'est quoi? C'est l'image. C'est encore l'œil. Toute notre génération, elle est basée sur l'œil. Aujourd'hui, on prend des présidents des États-Unis qui sont beaux. Ils ne sont pas forcément intelligents. Même des anciens acteurs. Quelqu'un, comment il peut avoir l'arme atomique alors qu'il était ancien acteur? Et celui d'avant, il était quoi? Marchand de cacahuètes. Mais ils ont un bon design. Paul Newman, il s'est présenté aux élections. Pourquoi? Il a une image. Tu as une image à vendre. Tu dis, mais un type qui va tenir l'arme atomique, il a une image. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son image? Ça suffit. Il va se vendre bien. Après, on va lui mettre une bonne équipe. Mais en vérité, il a vendu la personne. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est la face extérieure des choses. Or, qu'est-ce que la Torah nous dit sur la face extérieure des choses? C'est facile. C'est marqué dans la parachète Kedoshim. Kedoshim tiyu. Soyez saints. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Prushim tiyu minarayot. Soyez séparés de la nudité. C'est quoi la nudité? La nudité, c'est le rapport le plus grossier que l'on peut avoir avec la matière. Comme ça dit le Maharal de Prague. Quelqu'un, il regarde du manger, c'est matériel. Quelqu'un, il regarde l'argent, c'est matériel. Mais le plus matériel qui est, c'est quand un homme, il regarde une femme. Avec... bien sûr, avec un regard bestial. Maintenant, la femme elle-même, elle est théorique, elle est pure. Mais le regard de l'homme, quand il est tordu, c'est le plus niveau matériel qui existe. Et ça, c'est sur qui? C'est sur les harayot. Et les harayot, c'est qui? Les gens avec lesquels on a un interdit sexuel. C'est qui? C'est la sœur, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est la femme du père, même si c'est pas la mère. Ah, c'est écœurant. Qui c'est qui va imaginer des choses pareilles? Demandez à Freud qu'est-ce qu'il en pense. Oui? Non. Ici, la Torah veut nous dire une chose simple. La femme, ce n'est pas un objet. La femme, ce n'est pas de la viande. La femme, c'est un but. Mais le but de la femme, c'est la personne qui est en elle. Maintenant, quelqu'un qui veut se rapprocher, quelqu'un qui se recherche, alors il va rechercher chez la personne qui lui ressemble le plus. Comme ça, il dit le Sforno. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis un interdit sur les femmes qui sont le plus proches, la mère, la grand-mère et la sœur? Il dit, parce que la finalité de la sexualité, c'est de faire un avec la personne. Alors, il dit, puisque un homme, il est perpétuellement à la recherche de sa deuxième moitié, donc il y a un grand yetzer hara d'aller chercher sa deuxième moitié chez quelqu'un d'où vient la première moitié. Maintenant, ça, c'est le Sforno qui a dit. Le Sforno, il n'a pas fait de psychanalyse. Mais déjà, il a compris que quelqu'un, il est perpétuellement à la recherche de sa deuxième moitié. Donc la Torah, elle a dit, attention, la deuxième moitié, elle est dans l'avenir, elle n'est pas dans le passé. Donc ne va pas ni chez ta mère, ni chez ta sœur, il faut aller devant. Maintenant, la Torah, elle ne parle pas que physiquement, quelqu'un, il va aller avoir une relation sexuelle. Il veut dire que puisque la sexualité, c'est l'unité, donc la recherche de l'unité avec le passé, c'est interdit. La Torah te dit, la nudité, elle est dans l'avenir. Tu vas te marier avec ta femme, tu vas faire l'unité, pas avec ta famille. Qu'est-ce que c'est marqué ici? C'est marqué que quelqu'un, il peut tomber dans le piège de croire que la femme, ça peut être un but en soi. La Torah te dit, c'est la personne de la femme qui est importante, c'est pas le corps de la femme qui est important. Aujourd'hui, on est dans une société où la personne de la femme n'a aucune valeur. Même les féministes, elles vendent leur corps. Parce que si vous arrivez à m'expliquer pourquoi, est-ce que sur une publicité de voiture, il y a deux jambes de femme? Vous pouvez me dire pourquoi? Je sais pas. Quel rapport? Sur une pub de yaourt, il y a une poitrine de femme. Tu dis quel rapport? Aucun rapport. Et si vous allez me dire, bon, mais peut-être le lait, il vient de la poitrine. Non, 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 non. Ça y est, maintenant, tu traites les femmes de vaches. Regarde un peu. C'est très compliqué. À Bataille, c'est facile. Les goïms, ils ont compris une chose que tu n'as pas compris. Une fois, quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, oui, mais vous, les rabbins, vous voyez le mal partout. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a des femmes dénudées? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne faut pas être obsédé. Je lui ai dit, je te réponds une réponse claire. Écoute. Je dis, la Torah, elle a dit, velo ta Torah, harin le vafrem, vacharin lechem. Ne vous détournez pas après vos yeux, après votre cœur. Maintenant, ce que toi, t'as pas compris, le goy, il a compris. Pourquoi? Parce que le goy, il sait très bien que le produit qu'il vend, il est bidon. Comment il va faire pour que tu regardes? Il va mettre une jambe de femme. Et il sait que tu vas tourner la tête. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. avant de voir les jambes, tu as déjà tourné la tête. Parce que c'est marqué « Velo tatorua harel vafrem, vacharel echem ». La Gemara dit « Alef chomed ve'ainaim ro'ot ». D'abord le cœur il désire, et ensuite les yeux il voit. Le gars il a compris ça. Donc s'il veut vendre son produit, il met des jambes à côté. Maintenant toi tu tournes la tête, ton cœur il te dit « Tourne la tête, pourquoi ?» Pour les jambes, qu'est-ce que tu vois? Le produit, tu achètes le produit. Donc ce que toi, tu crois que la Torah, elle exagère, le goy, il en a fait un pôle de marketing. Vous comprenez ça? Parce qu'il sait que l'homme, il va tourner la tête pour une nudité. Mais la nudité, c'est quoi? C'est la face extérieure de la femme. La face extérieure que tu vois avec l'œil. La génération, la quatrième galoute, c'est quoi? C'est la face de l'œil. C'est quoi l'œil? C'est la face extérieure des choses. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah, c'est une personne. La femme, c'est une personne, c'est pas un corps. Donc, il faut que tu arrives à dépasser cette personne, à dépasser ce corps pour atteindre la personne. Le Ramban, sur le même passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi Kiddushim, soyez saints? Prushim tiyu mina arayot. Soyez séparés, prushim tiyu mina moutar. Soyez séparés de ce qui est permis. Alors, attendez, attendez, vous dites. La Torah, elle a déjà interdit ce qui est interdit. Alors, si en plus la Torah, elle a interdit ce qui est permis, alors il ne reste plus rien. Non. Le Ramban, il dit, un grand Kiddush. Il dit, quand tu manges, c'est permis de manger. Mais tu ne dois pas bouffer, tu dois manger. Quand tu bois comme un Ben-Adam, tu ne bois pas comme un cheval. Et quand tu as une relation avec ta femme, ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu peux faire n'importe quoi. Donc, prochim minute, tiou minamuta, ça veut dire que quand quelqu'un, il a une relation avec la matière, il doit respecter. Comment il doit respecter? Il doit se conduire comme un homme. Comment il se conduit comme un homme? C'est très facile, écoute-moi bien. Si la matière, c'est un but en soi, ben, tu vas être un chien. Mais si la matière, c'est un repère pour dépasser le repère. Maintenant, si le but de ton mariage, c'est d'évoluer avec ta femme, donc tu vas dépasser le corps de ta femme. Mais si c'est le but, c'est la femme, c'est le corps de la femme, donc dès que tu as le but. Si le but du manger, c'est de prendre des forces pour vivre comme un Ben Adam, donc tu vas dépasser le manger. Mais si le but, c'est le manger en lui-même, tu vas t'arrêter au manger. Si le but de la boisson, c'est de prendre des forces pour vivre, ça va. Mais si le but de la boisson, c'est la boisson, tu vas devenir un alcoolique. Ça veut dire quoi? À chaque fois que la matière, c'est un repère, alors tu dois dépasser la matière. C'est ce qu'on appelle en français donner un sens. Tu donnes un sens à ce que tu fais. Comment on appelle, nous, donner un sens à ce qu'on fait? C'est regarder l'intérieur des choses. Comment la Torah, elle appelle chercher l'intérieur des choses? La Kedusha. Donc, Kedushim Tiyu, ça veut dire, même dans ce qui est permis, il faut donner un sens. Parce que si tu ne donnes pas de sens, tu deviens un consommateur. Et c'est quoi un consommateur? C'est quelqu'un pour qui la face extérieure des choses, c'est ça le but. On lui dit la sexualité, c'est une façon de s'épanouir, lui il dit le sexe. On lui dit le manger, c'est un moyen de se donner des forces, lui il dit la bouffe. On lui dit la boisson, c'est un moyen de prendre des forces, lui il dit l'alcool. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce que HaKadosh Baruch Hu lui a donné comme repère, lui il en fait des buts. Maintenant, si toi, tu as une relation extérieure avec les choses, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu deviens extérieur. Si toi, tu as une relation superficielle avec les choses, toi aussi, tu deviens superficiel. Or, c'est quoi le grand pari de la vie? C'est quoi le grand but de la vie? C'est quoi? C'est est-ce que tu vas être essentiel ou est-ce que tu vas être superficiel? Comment on appelle les adultes en français? Des gens essentiels. Et comment on appelle les enfants? Des gens superficiels. Maintenant, les enfants ne voient pas qu'il y a un côté essentiel. Donc, on leur permet d'être superficiel. Mais les adultes, ils savent qu'il y a un essentiel. Or, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Dépasse. Ce qu'on dit « Sheker Aïn », c'est le mensonge de l'œil. Or, tout est basé sur l'extérieur. Regardez aujourd'hui, les fruits sont beaux, mais ils n'ont pas de goût. C'est pas grave, ils sont beaux. Ils sont pas bons, mais ils sont beaux. Les gens les achètent, ils sont beaux. Aujourd'hui, on croit que ce qui est beau est bien. Si c'est beau, c'est bien. C'est solide. Une machine, tu dis, elle doit être solide puisqu'elle est belle. Non, elle n'est pas solide, mais elle est belle. Pire encore maintenant, on dit ce qui est beau est vrai. C'est le plus vicieux, ça. Tu vois un vendeur sérieux en costume, bien bronzé, souriant, tu dis, il ne doit pas mentir, c'est pas possible. Tu vois une banque comme ça, tu dis, c'est pas possible que ce soit des voleurs. C'est beau, c'est en marbre, ça doit être vrai. Non, c'est faux. Encore une fois, on est dans le piège de l'œil maintenant. C'est quoi le piège de l'œil? C'est l'extérieur des choses. Ça veut dire quoi? La même manière, la bouche. Pourquoi aujourd'hui on a la génération de la bouche? Aujourd'hui, avec une bonne communication, je te dis, tu peux vendre n'importe quoi. Avec un bon slogan, tu peux faire n'importe quoi. Avec la force de la bouche, tu peux attraper n'importe qui. Avec une campagne électorale, tu peux faire voter n'importe quoi. C'est la force de la bouche. La force de la bouche, c'est la force de l'information. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour les gens? L'information. C'est quoi l'information? D'être au courant. Mais t'es au courant de quoi? Rien. Pire encore, ils ont dit les sociologues que maintenant on subit tellement une surinformation que les gens, ils sont obligés d'attraper des flashs. Regardez comment c'est vicieux. On te met 23 000 informations par jour et on te met des images. Maintenant, il y a un réflexe psychologique que quand les gens sont perturbés par les contradictions de l'information écrite, alors ils se réfugient dans l'image. Mais le but initial, à ton avis, c'était de quoi? De donner une information objective ou de donner une image? C'est donner une image. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai troublé avec les informations. Donc, soi-disant, les gens qui veulent être au courant, ils achètent tous les journaux. Quand ils achètent tous les journaux, ils se rendent compte que soit tout le monde dit la même chose avec une petite nuance, soit il y a des contradictions. Dans tous les cas, ils souffrent de surinformation. Qu'est-ce que ça donne la surinformation? Le trouble. Comme il est troublé, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des repères. Qu'est-ce qu'on lui donne de repères? Une image. Qu'est-ce qu'il voit? Une image. Hop, il retient l'image. Donc, en fin de compte, l'information, elle ne sert à rien. Pire encore, à quoi ils servent les journaux aujourd'hui, Rabotaille? Franchement, à quoi ils servent? Eh bien, faire du lashon hara. Si toi, tu viens, tu dis, je vais écrire dans la rue que cette personne-là, elle n'est pas bien. Les gens vont te dire, c'est assourd. Mais si tu mets dans un journal, c'est permis. Donc on a développé un pouvoir de la langue énorme. Regardez les gens de quoi ils ont peur aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas peur de faire des tricheries. Ils ont pas, un homme politique, il n'a pas peur de tricher. Il a peur qu'on va lui sortir un scandale. Parce que même si le scandale, il est faux, et même si après, il peut faire un procès en appel, et même s'il peut prouver que ce n'était pas vrai, mais en attendant, on l'a sali. Regardez aujourd'hui, dès que quelqu'un est mis en examen, il est obligé de sortir de son poste. Maintenant, quand il sort de son poste, ça lui reprend 1 ou 2 ans pour revenir en politique. Donc maintenant, et pour le mettre en examen, il a suffi qu'on fasse un bruit sur lui. Et dès qu'on a fait un bruit sur lui, les hommes politiques du même parti lui ont dit, il faut que tu sortes parce que les gens, ils parlent sur toi. Et maintenant, sur la base de quoi? Rien. Maintenant, le temps qu'on prouve que c'était rien, en attendant, il a perdu du temps. Donc aujourd'hui, la force, elle est quoi? Elle est dans l'information. C'est pareil. Avant les guerres, on les faisait avec les missiles, on les faisait avec les bombes. Maintenant, avec quoi ils ont fait le dernier intifada? Avec les caméras. On te filme. Tu tues un enfant en direct. C'est fini, t'es mort. Tu dis, mais attends, mais regarde ce qu'ils font, eux. Non, 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 non. C'est fini. Donc maintenant, on a peur de quoi des journalistes? On n'a pas peur des missiles, on a peur des journalistes. Donc on va prendre des petits Palestiniens qui se mettent comme ça devant la caméra. Et ouais, ils jettent des cailloux devant la caméra. On te montre pas que les ambulances qui passent l'une après l'autre, c'est pas des ambulances qui portent des malades, c'est des ambulances qui portent les cailloux pour les amener aux gens qui jettent les cailloux. Tout est dans l'image. Tout est dans l'information. Comment on formule les choses? On te dit, ah, encore 2 Palestiniens tués. On te dit pas qu'ils avaient une bombe sur eux, qu'ils étaient venus pour faire sauter un bus. On te dit, 2 Palestiniens tués. C'est dans la bouche. Tu vas dire, mais c'est un mensonge induit. Ça dépend. Si on vérifie, c'est un mensonge. Si on vérifie pas. Et même si on te le dit à midi, on te dit 2 Palestiniens, et à 4h, on te dit, ils venaient pour passer une bombe. Mais à midi, les gens, ils l'ont écouté. À 4h, personne n'écoute, c'est fini. Donc la radio, elle a fait ce qu'elle avait à faire, et toi, t'as entendu ce qu'il fallait pas entendre, c'est fini. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que tout est dans la bouche, et tout est dans l'œil. Mais c'est quoi la bouche? La bouche, c'est celle qui crée un discours extérieur. Et l'œil, c'est quoi? C'est celui qui crée une vision extérieure. Dans les deux cas, facteur commun pour nous, c'est quoi? Extérieur. Et aujourd'hui, tout est superficiel. Alors nous, on doit réfléchir, puisque nous sommes des bénis d'Israël, nous, on doit réfléchir, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à mettre en place un monde où tout est superficiel? Pourquoi? Vous comprenez? Il y a 100 ans ou 150 ans, si quelqu'un quittait la religion, c'est parce qu'il voulait rentrer dans la philosophie, il voulait rentrer dans le communisme, parce qu'il voulait un idéal. Mais si quelqu'un aujourd'hui va quitter la Torah, il va quitter pourquoi? Pour le corps d'une Goya, pour gagner plus de fric. C'est mesquin. C'est mesquin. Pourquoi? Parce que si la génération elle est superficielle, alors le Yetzirah il est superficiel. Mais si la génération elle est essentielle, alors le Yetzirah aussi il est essentiel. Alors nous on doit réfléchir à ça. Que quoi que la société elle a fabriqué un monde, mais ce monde là il est basé sur quoi? Sur quelque chose de superficiel. Et c'est très intéressant d'essayer de prendre la société à contre-courant et de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté la société et qu'est-ce qu'elle nous a pris? Regardez par exemple. Aujourd'hui, on dit, on vit dans la société des loisirs. Qu'est-ce qu'elle a apporté la société des loisirs? Que la majorité des Français, ils peuvent aller en vacances 1 ou 2 fois par an. Qu'on a une télé avec plein de chaînes de télé. Qu'on a des clubs de sport, qu'on a des clubs de gym, qu'on a des clubs de théâtre, qu'on a des clubs de cinéma. Bien, très bien. Mais ça, c'est ce qu'elle t'a donné, la société des loisirs. C'est vrai qu'en Afghanistan, ils n'ont pas ça. En Afrique noire, ils n'ont pas ça. Nous, on a la société des loisirs. Maintenant, ça, c'est ce qu'elle nous a donné. Qu'est-ce qu'elle nous a coûté? La société des loisirs, elle nous a coûté la perte de l'effort. Toi, tu faisais du calcul mental, ton fils, il a une calculatrice. Toi, tu te cassais la tête pour avoir le BEPS, maintenant, il te le donne pratiquement. Toi, tu te cassais la tête pour passer un examen, alors on baisse le niveau pour pas complexer les élèves. Toi, tu te cassais la tête pour apprendre par cœur. On dit, mais non, non, tu vas sur Internet, tu prends tout ton dossier, tu fais ton exposé. Pourquoi on facilite les choses? Maintenant, nous, on fait une chose. Quand on facilite, les gens, ils deviennent bêtes. Quand on les fait travailler, ils deviennent intelligents. La société, elle veut que les gens deviennent bêtes ou intelligents? Un idiot consomme bien. Un intelligent, il réfléchit avant de consommer. C'est mauvais pour veut que les gens soient intelligents. C'est très dangereux pour la société. Alors, on va les rendre bêtes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fabriqué la société des loisirs? Elle a fabriqué qu'il n'y a plus de ravoda, il n'y a plus de messirut nefesh, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'effort. Pas d'effort, le minimum de l'effort. Le minimum de l'effort. Après, on a dit, on a créé la société des richesses. C'est vrai, Baruch HaShem. Nous sommes la société la plus riche depuis la création du monde. C'est vrai. Ils ont calculé qu'avec 20% de ce que les pays riches jettent à la poubelle, on pourrait nourrir 80% du monde. Avec ce qu'on jette à la poubelle, ils pourraient nourrir 80% du monde. D'accord? On est bien on est un pays riche. C'est quoi un pays riche? Ben nous, on regarde dans la définition de la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Celui qui est content de sa part. Donc, qu'est-ce qui est pauvre? Qu'est-ce qui est pauvre? Celui qui n'est pas content de sa part. Comment on appelle ça en français? La maladie du manque. Maintenant, nous, on a créé une société de consommation où tout le monde est consommateur. Quelle maladie ils ont les consommateurs? La maladie du manque. Ils ont tous la manque. Ils n'ont pas la nouvelle magnétoscope, ils n'ont pas la nouvelle voiture. Ils ont pas. Donc le type, il a une voiture, il dit pourquoi j'ai pas l'autre? Il est en manque. Donc il est riche ou il est pauvre? La société des richesses, elle a créé la pauvreté. La pauvreté mentale, on vient expliquer. La pauvreté spirituelle, je t'en parle même pas. Elle a créé même la pauvreté matérielle. Parce que même le type qui gagne 80 000 francs par mois, il crève. Pourquoi il ne gagne pas 100 000? Celui-là, il a une voiture à 100 000, il voit son voisin, il dit pourquoi j'ai pas une voiture à 200 000? Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils n'ont pas le moral aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Deux solutions. Ou ils prennent du Prozac, ou ils prennent 500 francs, ils vont dans un magasin. Parce que quand ils achètent, regardez bien, quand ils achètent, ils existent. T'existes. Oui. Ce qu'on appelle en français exercer son pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir d'achat. Tu as le pouvoir d'achat. Donc le mec, il n'a pas la maîtrise sur sa femme, il n'a pas la maîtrise sur son mari. Il n'a pas la maîtrise sur ses enfants, il n'a pas la maîtrise sur sa vie. Il n'a pas la maîtrise sur sa colère, il n'a pas la maîtrise sur ses nerfs. Il n'a pas la maîtrise sur son mental, il n'a pas la maîtrise sur son physique, mais il a la maîtrise sur son porte-monnaie. Ah, ça a pour lui. Il existe. Il est quoi? Il est devenu une excroissance de carte bleue. Voilà ce qu'il est devenu. Extraordinaire. Ça veut dire que, encore une fois, au lieu de réfléchir à qu'est-ce que la société t'apporte, tu réfléchis à qu'est-ce que la société te coûte. C'est pareil. Il y a à peu près 200 ans, on a fait ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la révolution intellectuelle. On a dit, ça s'appelait le siècle des lumières. Grâce à la science, Baruch HaShem, nous avons trouvé la lumière. La lumière? Quelle lumière à Bretagne? Quelle lumière? Est-ce qu'on voit plus clair? Non. Est-ce que les gens savent ce qu'ils veulent? Non. À Bretagne, il y a 23 millions de personnes en France qui prennent du Prozac. Des antidépresseurs. 23 millions! Je ne sais pas si vous comprenez, il y a 26 millions de personnes qui travaillent, il y en a 23 qui prennent du Prozac. Je n'ai pas dit que c'est les gens qui travaillent qui prennent du Prozac, mais c'est quand même marrant, non? 23 millions, c'est une des plus grosses industries. Et si vous allez me dire, ah, la France est spéciale. J'étais au Canada il n'y a pas longtemps, écoutez ça, écoutez, j'étais au Canada. Et dans l'avion, ils passent un reportage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les stations d'épuration d'eau ont un grave problème. C'est qu'elles ne sont pas équipées pour filtrer les antidépresseurs. Or, ils se sont rendus compte que les eaux, vous savez que les eaux, elles sont en circuit fermé. D'accord? Les eaux. Vous buvez de l'eau, après vous allez aux toilettes, l'eau elle va dans les égouts, les toilettes vont dans les égouts ils vont dans le fleuve il passe dans l'épuration, ça revient, et ça redémarre. Donc la station d'épuration, elle enlève le calcaire, elle enlève le chlore, elle enlève des produits, mais elle ne peut pas enlever les antidépresseurs. Ils ont trouvé que l'eau de Montréal, elle a atteint un niveau de saturation au niveau antidépresseur. C'est-à-dire que les gens, ils en prennent tellement. Et ils les digèrent, et ils les mettent aux toilettes, et les gens, ils les retrouvent dans l'eau, et ils n'ont pas prévu dans les stations d'épuration d'enlever les antidépresseurs. Ils n'ont pas des filtres pour antidépresseurs. Ce qui fait que les gens qui boivent de l'eau au Canada boivent des antidépresseurs même quand ils vont bien. Alors vous savez que ça crée une dépendance. Je ne sais pas si vous sentez le problème. D'un seul coup, tu es mal dans ta peau. Tu vas voir ton médecin, tu lui dis « donnez-moi des médicaments », et tu lui dis « buvez de l'eau, monsieur. Buvez de l'eau. » Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que la France, ce n'est pas une exception. Ça veut dire que le pays, soi-disant, la génération du bonheur, la régénération des loisirs, la régénération de la richesse, ce n'est pas vrai, c'est une génération de shootés. Alors les enfants, on leur interdit de prendre du shit, et les adultes, ils prennent du Prozac. Alors, est-ce que vous comprenez? C'est très bizarre. On est heureux, on est ouvert, on est construit, on a tout ce qu'on a besoin de rien. Mais c'est qu'on a besoin de rien, bien sûr, parce qu'on n'a rien. Vous voyez ce qui est marqué ici? Soi-disant, la science, elle va amener la lumière. Soi-disant, la science, elle va expliquer. Elle va répondre aux problèmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La science, elle a ouvert des portes avec des nouveaux problèmes. La science, elle a compris que l'univers, il est double. Maintenant, il y a matière, antimatière. Elle a compris que la médecine, c'est de la génétique. Alors maintenant, on comprend plus rien. Elle a compris que, tous les jours, il y a encore. Est-ce que les gens sont plus clairs? Pas du tout. Puisque les sociologues disent, pourquoi est-ce que les gens sont mal dans leur peau? Ils disent pourquoi? Parce que leur vie n'a pas de sens. Mais je comprends pourquoi t'as pas de sens. Pourquoi? Pourquoi les gens ils se saoulent de cinéma? Pourquoi les gens ils se saoulent de chansons d'amour? Pourquoi les gens ils se saoulent de manger? Pourquoi les gens ils se saoulent de sexualité? Pourquoi? Parce que leur vie n'a pas de but. Mais je comprends pas, si t'as allumé la lumière, ça doit être clair maintenant, non? Tu vas devoir voir clair. Au contraire, c'est de plus en plus l'obscurité. Le jour où ils ont décidé d'enlever, d'atteindre le siècle des lumières, c'est quoi le siècle des lumières? C'est le siècle de la philosophie et le siècle de la science. Ils ont détruit le siècle de la spiritualité. Ils ont dit maintenant on veut plus la morale. Ils ont dû fabriquer une société, regardez bien, qui est amorale, qui est sans morale, amorale, qui est sans morale. Ils ont fabriqué une société qui est immorale. Maintenant, des couples de deux hommes, ils veulent adopter des enfants. Tu dis, mais c'est dégoûtant. Mais non. Maintenant, ils font des manifestations dans la rue. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, n'importe où dans la rue, tu as des affiches avec des numéros de téléphone. Une fois, quelqu'un m'a dit, je lui dis, pourquoi il y a ça? Il m'a dit, c'est la liberté d'expression. Je dis, mais moi, si j'ai envie d'aller avec mon fils dans la rue et j'ai pas envie de voir ça, alors je suis pas libre, moi. Alors où est la liberté? Pourquoi la liberté, elle va dans un sens, elle va pas dans l'autre sens? C'est extraordinaire, vous comprenez ça ou non? C'est une agression. Je veux pas être agressé. Alors ils ont dit, oh, faut pas avoir le mal partout. Mais c'est pas du mal. Je dis, moi, madame, vous êtes mariée. Est-ce que vous promenez en soutien-gorge de votre enfant? Elle dit, ah, chas shalom. Elle est pas religieuse maintenant. Elle dit, est-ce que vous mettez en soutien-gorge? Non. Alors pourquoi vous acceptez que votre fils, il voit des soutiens-gorge dans la rue? Alors je vais lui expliquer, c'est pas ta mère. Mais quel rapport? Maintenant, il a vu le soutien-gorge, c'est terminé l'histoire. Maintenant, où tu penses que la pudeur, c'est important pour l'équilibre de la personne, ou tu penses que c'est pas important? Même si tu n'es pas religieux, mais au moins t'es juif, et même si t'es pas juif, t'es moins goy, au moins t'es goy, t'es pas un bœuf encore. Donc, un homme normal, il sait bien que la nudité, ça représente quelque chose, et il faut préserver les enfants d'une certaine nudité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'équilibre mental pour absorber cette nudité. Comme on dit, il y a un temps, il y a un enfant, il y a un adolescent, il y a un adulte. Un adulte, il a une certaine perception de la nudité, un enfant ne l'a pas. Maintenant, ils ont calculé, les psychiatres, que si un enfant, on lui donne une perception de la nudité qui est trop tôt, ça peut créer chez lui des traumatismes psychiques qui peuvent aller jusqu'à l'épilepsie. C'est-à-dire que si un enfant, il assiste à une relation, il peut devenir épileptique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'on peut être bien et crier et être content en même temps. Il ne comprend pas l'enfant. C'est comme ça que c'est marqué dans les grandes conclusions des grands psychiatres. C'est bien, non? Manque de chance pour eux, la Gemara dans les Darim, à la fin du deuxième Pérec, elle dit que si un enfant il assiste à une relation, il peut devenir épileptique. Ça veut dire que la Torah nous a prévenus il y a 3500 ans. Le goy, après 3000 ans de recherche, plus toutes les expériences tendues qu'il a dû faire pour y arriver. Parce que Blaina, ils sont bien perturbés, il faut les comprendre. C'est pas parce que c'est leur métier que... Ouais. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Ça veut dire quoi? C'est que si nous, on s'interrogeait, au lieu de savoir qu'est-ce qu'on a gagné, la NARA avec la société du progrès, on se demandait qu'est-ce qu'on a perdu. Regardez même le professeur Reeves, qui n'est pas religieux, pourtant il a une barbe comme ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, le monde, en 150 ans, il s'est plus détruit qu'en 15 millions d'années. Parce que d'après eux, le monde, il a 15 millions d'années. Mais en 150 ans, Rabotaille, la couche d'ozone, elle est pratiquement explosée. Il n'y a pratiquement plus d'eau pure dans le monde. Il n'y a pratiquement plus d'oxygène pur dans le monde. Il n'y a pratiquement plus un seul produit où on ne trouve pas un mélange de génétique. Il n'y a pratiquement plus de les choses de base. Je ne comprends pas l'eau, l'oxygène. C'est basique. C'est basique. Les gens, ils font la tête, soi-disant, parce qu'ils ont peur de trouver des anxios, je ne sais pas quoi, à l'intérieur des tomates. Mais de toute façon, déjà, mon frère, l'air que tu respires. C'est ce qu'ils ont dit, les médecins. Ils ont dit avant, un enfant, d'abord, il attrapait une grippe, après, il attrapait une bronchite. Après, il a attrapé une broncholite. C'était l'étape. Il dit, mais maintenant, à cause du niveau de pollution, les enfants, dès la première grippe, ils attrapent la broncholite. C'est à cause de la pollution. Donc, toi, tu dis le progrès, qu'on a tous des voitures. Ah, ça a le progrès. Que maintenant, ton fils, il a attrapé une broncholite en 2 jours. Allez, vas-y, va lui faire la kiné, va lui faire les antibiotiques. Et les antibiotiques, tu dis, c'est pas grave, on a des antibiotiques. Mais les antibiotiques, ils affaiblissent les défenses de l'enfant. Après, quand tu arrives à saturation, même les antibiotiques, ça marche plus. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que vous comprenez? Ce qu'eux, ils ont appelé le progrès, eux-mêmes maintenant, ils ont découvert que ce progrès-là, il les a dépassés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont joué aux apprentis sorciers. Alors toi, tu fais confiance à l'homme, voilà ce que l'homme il a fabriqué. Et c'est impossible, pourquoi ? Parce que l'homme, il est fait en trois morceaux. Il y a une neshama, un nefesh, un psychique, et un gouf, le corps. Maintenant, le corps, il est entièrement matériel. La neshama, elle est entièrement spirituelle. Et le nefesh, il se balade entre les deux. Maintenant, nous, on n'a jamais nié que le psychique existe. Si vous voulez faire des études de psychologie, vous prenez le Shmoneh Prakim du Rambam, oui, avec les commentaires, vous avez fait déjà 2 ans de psycho. Pourquoi les gens, ils croient que la fac, elle a créé la science ? Pourquoi ils croient ? Pourquoi la première université de médecine dans le monde, elle a été créée à Montpellier et qu'il fallait parler hébreu pour rentrer dedans ? Parce que c'était que des rabbins qui enseignaient. C'est la première université du monde. C'est l'université de Montpellier. C'était des rabbins. Parce que qui c'est qui connaissait la médecine au Moyen-Âge ? C'était pas médecin. Avant, ils appelaient ça un seigneur. Et t'as mal à quelque part, il te trouille, ça t'enlève de lit, ça va mieux ? Tu dis, si je lui dis que j'ai mal, il va me faire pire. Donc, t'as un corps au pied, il te coupe la jambe. Tu dis, bon, c'est bon, ça va mieux. C'est pareil ici. Ici, en bataille, ça se résume tout ça à une chose simple. Un petit machin. Quelle différence il y a entre une ampoule électrique et un morceau de viande ? Quelle différence ? Et il me dit, mais ça n'a aucun rapport. Si, tu vas voir. Vous savez que tout objet dans le monde n'est pas lumineux. Par exemple, cette montre, elle ne crée pas de la lumière. Seulement, comme il y a de la lumière dessus, donc elle peut refléter la lumière. Le morceau de viande, il peut refléter de la lumière. Par contre, l'ampoule électrique, elle émet de la lumière, elle crée de la lumière. C'est exactement la différence entre les bénis Israël et les Oumot HaOlam. La lumière chez les Oumot HaOlam, chez les peuples du monde, c'est quoi ? C'est une lumière reflétée. La lumière chez les bénis Israël, c'est une lumière créée. Ça veut dire que la lumière, elle sort de la neshama, Rabotai. Elle ne peut pas sortir du corps. Le corps, c'est de la viande. Tu peux refléter de la lumière sur un corps. Mais tu ne peux pas créer de la lumière à partir d'un corps. Alors, tout va être basé sur la réflexion de lumière. Regarde, tu vas aux Champs-Élysées. Tu dis, c'est la plus belle... Non, tu vas dans un centre commercial à l'intérieur des Champs-Élysées. C'est la plus belle avenue du monde. C'est la plus belle. Mais tu vas à une boutique Kuka, une boutique Kenzo, une boutique Saint-Laurent, une boutique, je sais pas quoi, toutes les marques. Maintenant, tu sais quoi ? Au lieu d'y aller le jour, vas-y la nuit. On a éteint les lumières, tu rentres là-bas, tu donnes 1000 francs au gardien, tu vas te balader dans les couloirs. Il n'y a pas plus sombre qu'une galerie commerciale le soir. Et pourtant, dans la journée, quelle lumière ! Tu vas dans les boutiques de parfums, tu dis, mais c'est l'eau là-bas, ici. Ils ont fait des effets de lumière, ils ont fait des effets de couleurs, des effets d'ambiance, des effets de parfum. Il y a ils te donnent comment ça s'appelle ? Pas les échantillons, la pub, la communication autour du parfum. On dirait vraiment que c'est quelque chose d'essentiel. Tu rentres dans le monde de l'au-delà. Mais quand tu éteins la lumière, il n'y a rien. C'est pareil la chokhma. Quelle différence entre la chokhma et la Torah ? La Torah, c'est la lumière qui sort de la neshama, Rabotai. La chokhma, c'est quoi ? C'est une sagesse que tu prends de l'extérieur, qui vient de quelqu'un, qui passe par ta tête et qui ressort. Comment on appelle ça en français ? La réflexion. Ça veut dire quoi, réflexion ? Reflet. Tu peux être le reflet de Platon. Tu peux être le reflet de Aristote. Tu peux être le reflet de Kant. Mais quand quelqu'un étudie la Torah, Rabotai, s'il étudie toutes ses forces, il a une chance sur deux. Ou il va être le reflet de Dieu, et ça c'est très dangereux, parce que le dernier qui a essayé, on l'a cloué il y a 2000 ans. Ou il va être le reflet de lui-même. Est-ce que vous comprenez ? De toute façon, dans la Torah, tu ne peux pas tirer plus que ce que tu es. Si tu es tordu, tu vas avoir une Torah tordue. Si tu es vrai, tu vas avoir une Torah vraie. Mais c'est ta Torah qui va sortir, la tienne. Vous comprenez ? Parce que de toute façon, tu ne peux pas percevoir plus. Même si tu fais semblant, en 10 minutes, on va voir que tu ne tiens pas la route. Donc c'est terminé. Tu peux apprendre Platon par cœur. Mais tu ne peux pas apprendre le chasse par cœur si tu ne comprends rien. Vous comprenez ou non ? Ça veut dire que dans la Torah, on transmet ce qu'on est, et dans la connaissance Goy, on transmet ce qu'on a. C'est la différence. Or, ce qu'on a, c'est avoir, c'est dans le corps, c'est fini, c'est limité. Même la connaissance, elle est matérielle. Parce que c'est le reflet. Comme la viande, elle reflète la lumière. C'est ça ce qu'ils ont proposé les Grecs au Bénisraël. Ils leur ont dit, mais arrêtez la Torah, on vous donne la sagesse. Vous voulez la beauté, on vous donne la beauté physique. Les ministres, ils ont dit, on veut la beauté spirituelle, la beauté intérieure. On veut la sagesse intérieure, on veut la Torah, on ne veut pas la sagesse extérieure, la réflexion philosophique. On veut On veut la réalité de la Torah de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a le choix. Ou sur un monde extérieur, ou sur un monde extérieur. Ou sur un monde intérieur. Qu'est-ce qu'elle propose à la société? Elle propose le monde extérieur. Alors encore une fois, à quoi ça correspond tout ça? Ça correspond à un monde où les choses ne sont pas claires. Ça correspond à un monde d'obscurité. Ça correspond à un monde d'immaturité. Parce qu'encore une fois, les gens dont le but c'est de la bouffe et du sexe, automatiquement ils ne sont pas matures. Parce que la maturité c'est celui qui regarde l'essentiel des choses. Et l'immaturité c'est celui qui regarde l'intérieur des choses. Celui qui regarde l'immaturité, celui qui regarde l'extérieur des choses. Donc les gens, à partir du moment où ils deviennent des grands consommateurs, ils deviennent des grands enfants. Or un enfant c'est quelqu'un d'immature. Maintenant un enfant, si tu lui enlèves son ballon, il devient fou. Donc celui-là, si tu lui enlèves son magnétoscope, si tu lui enlèves sa voiture décapotable, si tu lui enlèves son deux pièces à la grande motte, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'il a pris des repères d'enfant. Et un enfant, pour le déstabiliser, tu lui enlèves les repères. Alors vous allez me dire, mais la Torah, elle n'est pas contre le manger. La Torah, elle n'est pas contre la sexualité. La Torah, elle n'est pas contre l'argent. La Torah, elle est contre rien. À une condition. Écoutez bien ce que je vous dis. Si tout ce qu'on vient de dire, c'est des repères, c'est pas grave. Mais si ça devient des buts, c'est fini. Et c'est ça toujours qui a fait la différence entre le goy et le juif. Le goy, il a dit que le but, c'est la matière. Le juif, il a dit que le but, c'est l'antimatière. Maintenant, le juif, il a dit que pour atteindre l'antimatière, il faut passer par la matière. Pour atteindre l'essentiel, il faut passer par le superficiel. On n'a pas dit, nous, que le but, c'est l'essentiel. Il faut rester essentiel dans l'essentiel. Non, ça, c'est l'ishma, c'est pour deux ou trois personnes dans le monde. Mais les trois quarts des bénis Israël, c'est des gens qui vont vivre dans le matériel, mais qui vont dépasser le matériel. En français, on appelle donner un but à sa vie. On appelle ça donner une dimension de mitzvah à ton acte. Parce que c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est donner, de dépasser la matière. Donc tu manges les Shem Shamaim. Tu bois les Shem Shamaim. Tu marches les Shem Shamaim. Tu vas avec ta femme les Shem Shamaim. À chaque fois que tu dépasses la matière, on a compris, t'as compris à quoi il sert le repère. Mais si, Chas V'Shalom, tu t'arrêtes au repère, il n'y a pas de lumière. Parce que le repère, c'est de la matière. Et la matière, elle peut refléter la lumière, mais elle ne peut pas créer la lumière. Où est la lumière derrière? Regardez, tu regardes les yeux de quelqu'un, tu vois sa neshama. Il y a des yeux qui brillent, il y a des yeux qui ne brillent pas. Il y a des gens qui ne brillent pas. On dit d'ailleurs, ce sont des personnes brillantes. Aujourd'hui, pour être brillant, ils se mettent du gel. Mais ils ne sont pas brillants. Quelqu'un de brillant, tu vois ses yeux. Maintenant, aujourd'hui, tu vois des gens de 80 ans, ils ont les yeux qui brillent. Et tu vois des jeunes de 20 ans, ils ont les yeux ternes. Ils sont blasés, ils ont tout vu, ils ont tout compris. Ils disent, attends, qu'est-ce que tu vas faire, attends. Mais t'es rien. C'est rien, c'est un Game Boy avec une boule dessus, c'est rien. Il n'y a rien. Mais il est sûr qu'il a tout vu, il a tout compris, il a tout vécu, c'est bizarre. Comment des gens qui n'ont rien vu de leur vie, ils sont convaincus d'avoir tout compris, et des gens qui ont mis des années, ils sont encore à la recherche de la vérité. C'est bizarre, hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a donné à notre jeunesse des repères qui sont faux. Donc le type, quand il a eu de la bouffe, il croit qu'il a atteint le but de la vie. Quand il a une relation sexuelle à 14 ans, il dit, ça y est, j'ai vécu, je suis un homme. T'es pas un homme, t'es un chien. Mais non, mais lui, il est un homme. Quand il a bu de l'alcool, il dit, ouais, j'ai pris une cuite avec des copains pendant une colonie de vacances. Il croit qu'il a vécu quelque chose. Il a rien fait de sa vie. Il a touché la drogue alors que son père l'a pas touché. Il croit qu'il a fait, il a rien fait. Ah, comment il est tellement convaincu? Il faut voir l'assurance. Faut voir. Il dit, mais de toute façon, ça y est, moi j'ai tout compris. Pourquoi? Encore une fois, si quelqu'un il donne un repère matériel, quand il a atteint le repère, il est un adulte, puisque pour nous, les adultes, c'est les gens qui atteignent le repère. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. La matière, c'est un repère pour dépasser le repère. Encore une fois, pour loin. Vous mettez un point à la naissance et un point au matériel. Vous posez les deux points et ensuite vous tracez une droite. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Prolonge la droite, mon frère. Prolonge. Aujourd'hui, tu es marié, tu commences un petit peu à connaître la sexualité. Maintenant, tu vas t'épanouir avec ta femme, tu vas comprendre que c'est un moyen à dépasser. Tu vas encore grandir, tu vas créer la complicité, ça va encore évoluer. Mais à la fin, il n'y a plus de sexualité dans la sexualité. Il n'y en a plus. C'est pareil la bouffe. Aujourd'hui, tu bouffes parce que tu as faim. Demain, tu bouffes parce que tu as un but. Après, tu bouffes parce qu'il faut que tu continues à vivre. Après, la bouffe, ça devient un moyen. Ah! Alors pourquoi? Pourquoi il y en a qui grossissent? Puisque la bouffe, c'est un moyen. Parce qu'ils en ont fait un but. Et allez voir un nutritionniste, il va vous le dire. Si le but c'est de vivre et qu'il faut manger pour vivre, le manger ne fait pas grossir. Mais si le but c'est de manger, quand tu manges, tu grossis. C'est comme ça la vie. Donc les gens qui n'ont pas de but, leur but c'est leur assiette. Et si vous allez me dire, faut pas exagérer, mais demandez, moi j'ai pas eu la chance de faire des études. Mais ce que je sais, c'est que les analyses que je donne à travers les cours, les psychologues, eux ils me disent c'est du doctorat. Mais moi j'ai pas fait. Alors j'ai parlé avec un nutritionniste, je lui ai expliqué ma théorie, je lui ai dit à mon avis c'est ça. Les gens qui n'ont pas de but, le but c'est de manger. Leur but c'est quoi? C'est de maîtriser leur assiette. Donc quand ils finissent leur assiette, ils réparent le fait qu'ils n'ont pas terminé leur travail, qu'ils n'ont pas finalisé l'éducation de leurs enfants et qu'ils n'ont pas construit leur couple. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent leur assiette, regarde. Ils finissent leur assiette. Mais le but c'est pas de finir l'assiette. Bon. C'est comme si quelqu'un il a fait le plein de sa voiture, il dit « j'ai fait le plein ». Mais on s'en fout du plein. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture. Donc ton corps, c'est une voiture. Comment tu utilises ton corps? Mais si tu dis mon corps, je l'ai. C'est pareil. Maintenant, les gens, ils font le culte du corps. Ils font de la gym, ils font du lifting, ils font des stretching, breathing, retreat. Pourquoi faire? Pour mourir en bonne santé. Un sahab pour toi. Pour que les gens, ils puissent dire, tu te rends compte? Jamais on aurait cru qu'il avait 54 ans. C'est normal. 67 et opération. C'est pareil. Les gens aujourd'hui, soi-disant, ils font des trucs... Ils sont gros de là, ils sont maigres, ils enlèvent ici, ils rajoutent ici. Oui. Et une femme, son médecin, elle a fait tellement d'opérations, il l'appelle Silicon Valley. C'est des femmes en plastique. C'est-à-dire que quand tu serres la main à quelqu'un, tu dois lui demander, excusez-moi, vous êtes en plastique? Il dit, non, je suis... Vous n'êtes pas en silicone? Non, je suis en chair. C'est pas évident. Et ça va être de plus en plus, la bouteille, de plus en plus. Ça veut dire quoi? C'est encore ton image. Alors que tu as besoin de ton image parce que tu as un but, il n'y a pas de problème. Regardez, je vais vous donner une preuve. Un homme n'a pas le droit de faire la chirurgie esthétique. Pour rien. Mais une femme a le droit. Pourquoi une femme a le droit? Parce que si sa beauté, elle s'en sert pour sauver son mari de la Havera et pour faire évoluer son couple, la Torah dit, tu as le droit d'être belle. Mais si elle a une beauté pour avoir une image, pour épater les copines, la Torah te dit, mais t'es malade, t'as pas le droit de toucher à ton corps. Ton corps, il est préprogrammé depuis la création du monde. Dieu, il te l'a donné, tu crois qu'on s'amuse avec ça? Donc quand tu fais pour évoluer, tu as un but, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'as pas de but, c'est terminé. Exactement pareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Les gens ne donnent pas de sens à leur vécu. Et c'est, toutes les maladies, elles viennent de là. Hein. Allez voir les psychologues, ils vont vous dire c'est parce que les gens ne donnent pas de sens. Allez voir les économistes, ils vont dire pourquoi le monde ne marche pas. Parce que les gens n'ont pas de but. Allez voir les psychologues, pourquoi les gens ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas de but. N'importe quel. Allez voir la délinquance, pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas de but. Donc tout le monde est d'accord que le problème, c'est que les gens n'ont pas de but. Qu'est-ce qui a créé qu'il n'y a pas de but? Parce qu'on a créé la consommation. C'est quoi la consommation? C'est le but à court terme. Maintenant, les gens qui ont des buts à court terme n'ont pas des buts à long terme. Donc en fabriquant la société de consommation, on a fabriqué tous les problèmes d'aujourd'hui. Vous me suivez ou non? Alors, si c'est comme ça, hein, regardez bien maintenant. On dit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à ce qu'un homme, il ait la Emouna. Il tourne. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la croyance. Maintenant, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'arriver à s'investir dans une chose que tu ne vois pas. Je sais que vous connaissez tout ce principe, mais je vous le redonne quand même parce qu'il est important. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Saint Thomas. Peut-être c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Saint Thomas, il est venu, il a dit, je ne crois que ce que je vois. D'accord? Je ne crois que ce que je vois. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un grand philosophe. J'ai réfléchi pendant à peu près 7 minutes aux toilettes sur ça. Et j'ai compris une chose. J'ai dit, je ne comprends pas. Ce que l'on voit, on n'a pas besoin de croire, puisqu'on le voit. D'accord? Et ce que l'on ne voit pas, on ne peut que le croire, puisqu'on ne le voit pas. Donc ça ne veut rien dire, je vois que ce que je crois. Si vous me dites, tu sais, Ria, derrière toi, il y a un billet de 500 francs qui est accroché au mur. Je ne peux pas le voir, puisqu'il est derrière moi. Je suis obligé de le croire. Mais si je le vois, tu vas me dire, alors est-ce que tu le crois? Je n'ai pas besoin de le croire, parce que je le vois. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois. Ça fait 2000 ans que ça se vend, il n'y a pas un type qui a réfléchi à ça. Mais c'est débile. Oui ou non? Et pourtant, les gens, non, moi je ne crois que ce que je vois. C'est quoi ça? C'est des gens qui ont été piqués au camembert Édouard Leclerc, c'est pas possible. On fait des intraveineuses de ketchup pour être bêtes à ce point. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur tête, les gens? Ils croient parce qu'ils ont la 5, alors ils croient qu'ils sont devenus des gens cultivés. C'est pourquoi ils s'appellent la 5. Hamcha pour toi, pour ce qui te reste de ton cerveau. Hamcha. Vous comprenez? Ça veut rien dire, Abotai. C'est marqué. Que quoi? Que la Emouna, c'est d'arriver à voir derrière. La nuit, tu vois pas. Alors qu'est-ce qu'on fait le soir? Emet ve Emouna. Quand tu te maries, tu sais pas quel est l'avenir. Alors il faut avoir la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il est caché derrière la nature. Tu le vois pas. Alors il faut avoir la Emouna. Quand tu élèves un enfant pendant 20 ans, tu es obligé d'avoir la Emouna parce que tu as rien. Il y a des gens, ils ont pas la Emouna. C'est quoi les gens qui ont pas la Emouna? Ça, j'ai dit aujourd'hui, des gens, ils disent, oh, vous savez, je suis croyant, je suis pas croyant. Mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Puisque 99% de ta vie, tu ne les vois pas. Donc tu es obligé d'y croire, parce que tu ne la vois pas. Un type, il rentre en médecine. En première année, on dit, pourquoi tu fais médecine? Il dit, ben, je veux être médecin. Mais peut-être tu vas mourir au milieu. Peut-être qu'il y a un 747 qui va se poser sur la base. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les 747, ils ont des graves problèmes pour atterrir. D'accord. Donc comment tu fais médecine? Alors tu dis, ben, j'y crois. Pourquoi tu crées une entreprise? J'y crois. Pourquoi tu te maries? J'y crois. Donc même un goy, 90% de sa vie, elle est basée sur sa croyance. On est obligé de croire. Seulement que nous, la croyance, on appelle ça la émouna. On prolonge la droite jusqu'à Hachem. Mais la droite, elle rentre à l'intérieur du mur. Mais si la droite, tu l'arrêtes au mur, ce qu'on appelle le réalisme, ce que tu vois, mais t'es foutu, mon frère. Si tu regardes ta boutique, tu vas fermer la boutique. Paye l'URSSAF, paye l'artisan, paye le truc, paye le pare-brise, paye... tu arrêtes. Si tu regardes ton mariage, tous les jours, tu as des difficultés. Divorce. Si tu regardes l'éducation des enfants, tous les jours, tu as des problèmes. Divorce. Arrête, jette-les à la nasse. Donc comment est-ce que tu gardes ton mariage? Parce que de temps en temps, tu fais un bilan, tu dis, bah, au Hachem, avec les efforts que j'ai faits, mon couple, il évolue. Tu regardes derrière, tu vois ce que tu as atteint. Comprenez ou non? Et tu as un projet de couple. Mais celui qui n'a pas de projet de couple, Ras du Shalom. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grave maladie qui s'appelle la routine. On a créé des escrocs, pour ça, ça s'appelle les sexologues. Oui. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un sexologue, ils disent au bout d'un moment, vous savez, avec ma femme, nous avons un problème de routine. Alors qu'est-ce que le sexologue? Il dit, bon, essayez ça. On n'est pas au snack ici, là, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est bizarre. À bout de temps, la routine, ça veut dire que quelqu'un, il est marié avec le corps de sa femme. Et le corps de sa femme, au bout d'un moment, évidemment, t'as fait le tour. Mais si quelqu'un, il est marié avec la personne de sa femme, elle évolue. Donc il a une nouvelle femme. Après, elle lui a fait un enfant, elle est nouvelle. Elle évolue avec ses enfants, elle est nouvelle. Elle évolue avec le deuxième, elle évolue avec le troisième. Ils ont un problème avec le quatrième, ils évoluent ensemble. Donc la femme, elle évolue, donc il n'y a pas de routine puisqu'elle évolue. Ah, pourquoi c'est la même? Parce que tu regardes le corps. Ras Vichel. Regarde-moi le cheval que t'es devenu. Toujours les gens me demandent, ils me disent, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut aller voir un sexologue? Je dis, moi, je vous pose une question, monsieur. Pourquoi c'est pas votre femme qui pose cette question? Elle dit rien, la femme. Halina. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal de Prague que la femme, elle cherche l'intérieur de l'homme et l'homme, il cherche l'extérieur de la femme. Donc un homme, il doit se travailler pour voir l'intérieur de sa femme parce que s'il voit l'extérieur, automatiquement, qui c'est qui a mangé une glace 10 fois et qui garde le bâton? Qui c'est? Mais Rabotai, ça, c'est un produit de la société goy, ça. C'est pas chez nous. La Torah, depuis que tu maries, elle t'a dit attention, c'est une neshama. Ton beau-père, il t'a dit, attention, je t'ai confié une neshama. Dieu, il m'a donné une neshama, je l'ai gardée pendant 20 ans. Maintenant, je t'ai donné cette neshama. Elle va t'amener des autres neshamotes. On a épousé une neshama. Qui c'est le hamor qui croit qu'il a épousé une poitrine? Mais qui c'est le brel? On parle des chiens, on parle des hommes maintenant. Comprenez ou non? Moi, je veux bien que tu sois pas religieux, mais tu m'as obligé d'être un chien. C'est incroyable en France. Ou tu fais partie des 26 millions qui prennent du Prozac, ou tu fais partie des 30 millions d'amis. Pourquoi? Tu peux pas être un homme. C'est vrai, ça fait déjà 56. Sans compter les chiens qui prennent du Prozac. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'occasion d'être un homme. C'est quoi être un homme? C'est être un adulte. C'est quoi être un adulte? C'est regarder derrière la matière. Maintenant, où est le problème? C'est que regarder la matière, on appelle ça la Emouna. Mais comme la société, elle a voulu détruire la notion de la Emouna, comme on a des juifs Bleinara, chez nous aussi, des Hamorim, qui ont voulu créer ce qu'on appelle un judaïsme éclairé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le judaïsme, ils ont enlevé la Torah. Mais un judaïsme sans Torah, qu'est-ce qui reste? Un club de sport. Une ambiance. Vous comprenez ou non? Ils ont dit, on va faire un judaïsme éclairé. J'adore ce judaïsme éclairé, je l'adore. Chaque fois que j'essaie de parler avec un juif éclairé, oui, il me traite d'obscurantiste. À moi, il me traite d'obscurantiste, alors que lui, il n'a jamais ouvert un livre de Torah de sa vie. Alors, je ne vois plus quel rapport il a avec la Torah encore. Il n'y a plus le rapport. C'est pareil ici, Rabotai. Soi-disant, ce qu'ils appellent, eux, le judaïsme éclairé, c'est un judaïsme où ils ont enlevé la mitzvah, ils ont enlevé la crainte d'Hachem, ils ont enlevé la relation avec la neshama. Donc, ils ont enlevé l'essentiel. Et quand on enlève l'essentiel, automatiquement, ça devient superficiel. Et si vous allez me dire, c'est un jugement un petit peu rapide. Alors je vais vous dire une chose incroyable. Le président de toutes les congrégations réformistes des États-Unis, après 60 ans de réformisme, c'est ce qu'il a dit. Il a dit nos synagogues ont perdu leur âme. Alors explique-moi comment. Ce Brel, il a compris qu'un juif, quand tu lui enlèves la Torah, tu lui enlèves la Neshama. Lui, il a compris. Et toi, en France aujourd'hui, tu veux un judaïsme éclairé qui s'écarte des courants ultra-orthos pour rentrer dans une vision qui soit proche de l'image judéo-chrétienne du juif inscrit dans la cité. Mais si un juif inscrit dans la cité, ça veut dire un goy. Alors laisse tomber. Aujourd'hui, tu t'habilles comme un goy. Demain, tu parles comme un goy. Demain, tu vois les mêmes choses que le goy. Après, tu manges comme le goy. Après, tu vis avec le goy. Après, tu te maries avec le goy. Après, ça devient honteux de faire la mila. Après, tu es obligé de travailler Shabbat, c'est le meilleur jour. Après, tu vas pas faire Shavuot, ça tombe le jour du vote. Tu vas pas, tu es obligé de voter, non? Alors, regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Soi-disant, un judaïsme éclairé. Mais tu vois pas que c'est l'obscurité dans ta vie? Parce que moi, je pose une question, moi. Pourquoi ces juifs éclairés, quand ils sont perdus, ils vont voir des ultras pour avoir une bracha? Pourquoi ils vont voir des grands rabbanim pour qu'on leur donne des réponses? Puisqu'ils ont la lumière. Saha pour eux, ils ont la lumière. Non. Parce qu'ils sont devenus de la viande. Et la viande, elle peut refléter la lumière de l'extérieur. Mais elle ne peut pas produire la lumière. Alors, il n'y a plus de lumière. C'est des gens, ils sont éteints. Ils n'ont pas de lumière. Pourtant, ils ont des organisations et des systèmes et des budgets. Et il n'y a rien. Réah, le vide. Je sais, puisque moi-même, ils me demandent, ils me disent, vous pouvez venir dans une institution, dans nos galas, dans nos soirées, pour amener un aspect du judaïsme. Je dis, mais monsieur, vous êtes des juifs ou vous êtes des goïms? Je ne suis pas une attraction foraine, moi. Si vous êtes des juifs, puisque vous revendiquez l'identité juive, alors proclamez l'identité. Mais tu dis, il ne nous reste plus rien de l'identité. Même le président de notre grand, le président de toute l'institution, il est marié avec une goya. Moi, je veux bien les amitiés judéo-chrétiennes. Il faut décider quand est-ce que ça commence le judaïsme, quand est-ce que ça s'arrête. Mais si tu as fait tellement de compromis qu'à la fin, il ne reste plus rien. Vous comprenez ou non? Ce n'est pas du racisme. Le goy, il doit apporter ce qu'il doit apporter dans le monde. Et nous, on doit apporter ce qu'on doit apporter dans le monde. Mais alors, pour faire plaisir au goy, on va détruire notre identité. Mais vous voulez que je vous dise le meilleur? Le goy, il est conscient de ce que nous, on apporte au monde. Et nous, comme des bahas, c'est quoi notre yetzerara? C'est d'être des bons goy. Le juif, c'est quoi son yetzerara? D'être le meilleur de Wall Street, le meilleur de Hollywood, le meilleur du cirque, le meilleur de la bouffe, le meilleur. Mais pourquoi? C'est le monde de Esav. Mais attention, quand tu es un bon goy, le juif, le goy, il supporte pas. Il dit, attends, tu as le spirituel, tu veux le matériel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dégage. C'est incroyable, hein? Donc toi, pour faire plaisir au goy, tu as voulu être goy. Et le goy, il veut pas de toi. Encore une fois, toi, tu dis aux juifs, il faut être cool avec les goyims. Mais le goy, il veut pas de toi, t'as pas compris, c'est pas toi qui veux pas de lui. Moi, je t'ai pas dit, c'est par toi du goy, c'est le goy. Toi, tu vas te marier avec la goya. Depuis 4 générations, tu vas faire l'ENA. Tu vas faire des grandes écoles. Tu vas rentrer chez Ron Poulenc. Tu vas monter. Et au dernier stade, quand tu seras vice, et tu pourras être directeur, il va te dire, mais monsieur, notre famille, aristocrate, chrétienne, catholique, maîtrise Ron Poulenc depuis 200 ans. Vous ne pouvez pas prendre un poste chez Ron Poulenc. Il va dire, pourquoi? C'est parce que vous êtes un youpin. Il va dire, pardon? Vous êtes un juif, monsieur. Il dit, mais j'ai épousé la goya, j'ai mangé du boudin, j'ai fait faire la communion à tous mes enfants, ils ont fait le catéchisme. Alors non, le goy va te le dire, c'est pas toi qui va lui dire, ils sont niais les gens. Les gens ils me disent, mais monsieur, vous êtes raciste. Mais même si je suis pas raciste, mais le goy, lui, il va te dire que t'es un juif, t'as pas compris encore. T'es niais, tu crois que les Allemands, on les a chauffés pour qu'ils soient antisémites. Ils sont niais les gens, ils sont niais. Toi t'es pas anti-goy, mais lui il est antisémite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que tu veux, toi, tu te mets à quatre pattes pour lui. Mais plus tu te mets à quatre pattes pour lui, écoutez bien, plus tu rejettes ton identité, soi-disant, pour lui faire plaisir, et plus il te traite de sale juif. C'est incroyable. Et toi, tu veux t'assimiler avec lui, et lui, il te met dans un ghetto. Et toi, tu veux te séparer des juifs, et lui, il te met dans un camp de concentration. Et toi, tu veux vivre comme un juif. Tu veux vivre comme un goy, et lui, il te dit, tu vas mourir en juif. T'as pas compris encore? Exactement l'inverse de ce que tu veux atteindre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se tromper, Rabotai. La Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est de voir plus loin. C'est quoi le contraire de la Emouna? C'est de voir à court terme. Alors, quand est-ce que le juif, il devient un adulte? Quand il voit à long terme. Quand est-ce que le juif, il voit, il devient un enfant? Quand il voit à court terme. Maintenant, on ne peut pas mentir, Rabotai. Depuis la création du monde, les juifs, c'était les adultes. Et les goïms, c'était les enfants. C'est comme ça que ça a toujours marché. Et si vous allez me dire c'est un petit peu prétentieux, Rabelais, c'est un des grands philosophes du Moyen-Âge et un des plus antisémites de tous les philosophes du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabelais? Il a dit les béné Israël, ils ont une mission dans ce monde. Ils doivent porter la dignité, ils doivent porter la vérité, ils doivent porter l'humanité. Et cette mission, elle sera dure parce qu'on va les persécuter, parce que justement, ils sont porteurs de la vérité. Mais ils doivent continuer leur mission parce qu'ils sont porteurs de la vérité. Donc, vous, si vous ne croyez pas la Torah, croyez Rabelais. Et si vous ne croyez pas la Torah, croyez Hitler. Qu'est-ce qu'il a dit, Hitler ? Qu'est-ce qu'il a dit, Hitler ? Hitler, il a dit, les Juifs sont porteurs de la maladie la plus grave qui existe dans le monde. C'est ce qu'on appelle la conscience. Donc, les Juifs, avec la conscience, ils nous empêchent d'être des animaux. Or, nous sommes des barbares. Nous sommes des barbares. Donc, en vérité, la guerre, tu crois les Allemands, les Américains, les Anglais, c'est pas vrai. La guerre, c'est Esav et Yaakov. C'est quoi Esav ? Nous sommes des barbares. C'est quoi Yaakov ? Nous sommes des êtres spirituels. Il sait, Hitler, qu'il ne pourra pas développer ses doctrines tant qu'il y aura un juif dans le monde. Parce que tant qu'il y aura un juif, il y aura une conscience. Or, lui, il veut détruire la conscience. C'est quoi l'absence de conscience maximum ? La consommation. Un bon consommateur, c'est quelqu'un qui n'a plus de conscience. Sa conscience, elle est devenue une excroissance de son ventre. On appelle ça un tube digestif intelligent. Un tube digestif intelligent. Ça veut dire que ce que Hitler n'a pas réussi à faire, la société de consommation, elle aurait presque réussi. Hitler, il a voulu détruire la conscience par la haine. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, le pays occidental ? Il a détruit la conscience par la paix. Il n'y a pas comme la paix, Rabotai. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est la non-remise en cause. La paix, c'est la richesse. La richesse, c'est la bouffe. La bouffe, c'est le ventre. Le ventre, c'est la consommation. C'est terminé. Tu as fabriqué une génération de Baha. Une génération de Baha. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y a une période de richesse, ensuite, il y a une crise économique et ensuite, il y a une crise mondiale. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il est obligé d'avoir une conscience. Maintenant, si tu lui enlèves la conscience avec la paix, il devient un monstre. Si tu lui enlèves la conscience avec la haine, il devient un monstre. Donc, c'est le seul moyen de faire un homme normal, c'est de l'obliger à avoir une conscience malgré qu'il a un corps. Mais si tu dis le corps, il va devenir la conscience de la personne, il devient un monstre. Soit il devient un monstre, comme aujourd'hui, un monstre démocratique. Un monstre démocratique, ce qui compte, c'est la bouffe. Ce qui compte, c'est le fric. Ce qui compte, c'est la richesse. C'est un monstre démocratique. Ou tu vas faire un monstre dictatorial, c'est le nazi. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de conscience. Vous comprenez ou non ? Alors regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Si on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde sur un mode, c'est qu'il a créé des repères. Et le but, c'est quoi ? C'est de dépasser les repères. Maintenant, comment on appelle, nous, l'exercice de dépasser les repères ? On appelle ça la Emouna. Maintenant, puisque ce monde-là, il a voulu détruire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a créé des faux repères. Il a dit le repère, c'est la bouffe. Le repère, c'est le sexe. Le repère, c'est la culture. Donc, il a créé des faux repères. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas absent, il ne dort pas. Quand il a vu qu'il y a une majorité de juifs qui sont tombés dans le piège des faux repères, maintenant, les juifs, ils ont dit, c'est quoi les vrais repères ? C'est la puissance américaine. C'est quoi ? C'est la richesse de la bourse. C'est quoi ? C'est la force de l'immobilier. C'est quoi ? C'est la puissance militaire. C'est quoi ? C'est la beauté extérieure. Alors Hachem, il a dit, quoi ? Moi, je vous ai donné la Torah, et vous, vous êtes tombé dans le piège du goy, de croire que les faux repères sont des vrais repères. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a détruit les repères. Il détruit les repères. Regardez, imaginez, on est dans cette salle, d'accord ? Donc, il y a un parterre, il y a un plafond, il y a quatre murs. On est bien. Vous savez, on se sent toujours mieux dans une pièce fermée que dans la rue. Imaginez, vous êtes en pleine, vous êtes à 800 km de Montréal, en pleine steppe de neige et de forêt. Vous avez peur. Mais si vous êtes dans une maison fermée avec le chauffage, vous êtes bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les repères, ça rassure la personne. Oui. Tant qu'il y a des repères. Mais le jour où tu te rends compte que les repères sont des faux repères, t'es détruit. Voilà, toi, t'es marié depuis 20 ans, t'as une femme, Blainara, super. Le jour où tu te rends compte qu'elle te trompe depuis 19 ans, pourquoi tu deviens fou ? Parce que tu perds tes repères. Toi, ton père, tu te rends compte qu'il ne t'aime pas et que quand il te frappait depuis des années, ce n'est pas parce qu'il voulait t'éduquer, c'est parce qu'il avait la haine contre toi, il ne voulait pas que tu naisses. Donc maintenant, tu as perdu ton repère. La perte des repères, c'est ce qui rend fou quelqu'un. Oui ou non ? Maintenant, quand je me crois, c'est que pour devenir des adultes, qu'est-ce qu'on fait ? On te donne des faux repères et ensuite tu dépasses les faux repères. Mais si quelqu'un il s'arrête aux faux repères, il devient un enfant perpétuel. Regardez bien maintenant, là il y a le plafond, il y a le plafond, le parterre. Et là il y a quatre murs. Imaginez, voilà, on est en train de parler et d'un seul coup, le plafond il disparaît. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois, vous savez, l'espace intersidéral, c'est quand vous êtes en plein dans l'espace. Vous voyez le ciel tout noir avec des millions d'étoiles. Vous dites, oh, c'est marrant, C'est-à-dire que le, imagine, ce plafond, ce n'est pas un vrai plafond. C'est une projection en 3D. C'est de l'image virtuelle. Il y a des projecteurs tout autour. On a fabriqué un plafond en 3D. Hop, il disparaît. Effets spéciaux, hop, il disparaît. Tu dis, oh, ben ça alors, on voit le ciel. Et d'un seul coup, les deux murs devant et derrière, ils disparaissent. Et tu vois l'espace intersidéral. Et après, les autres qui disparaissent. Il n'y a plus que le parterre. Tu dis, attends, si le parterre il disparaît, je suis où là? Je suis qui? Rabotai, la Emouna, c'est pour quand? C'est quand il fait noir. Maintenant, les bénis Israël, dans toutes les générations, il a fait noir, très noir. Imaginez les Juifs qui doivent faire la prière alors qu'ils vivent l'Inquisition en Espagne. Imaginez les Juifs qui doivent faire la prière alors qu'ils vivent les persécutions du Moyen-Âge. Imagine les Juifs qui doivent faire la prière alors qu'ils vivent les pogroms de 1700 et quelques en Russie. Imagine les Juifs qui doivent faire la prière alors qu'ils vivent la guerre de 14 avec tous les massacres. Et ils vivent la guerre de 45 avec tous les massacres et ils continuent à faire la prière. Ça s'appelle la Emouna, ça. Ça s'appelle la Emouna. Oui? Pourquoi? Parce qu'il fait noir et tu as la Emouna. Mais Rabotai, quand la lumière elle est allumée, tu ne peux jamais savoir si tu as la Emouna. Oui ou non? C'est comme le sens de l'orientation. Tant que tu t'es pas perdu, tu ne sais pas si tu as le sens de l'orientation. Maintenant, quand tu es perdu, eh ben, tu n'as aucun repère. Tu dis, attends, on est venu par là. Donc, si on va par là, c'est le sud. Donc là-bas, c'est le nord. Tu te repères. Mais tu te repères par rapport à quoi? Des choses que tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu maintenant? Il détruit les repères. Pourquoi il détruit les repères? Parce que quand Dieu détruit les repères, qu'est-ce qui reste à Rabotai? Il reste que la Emouna. Donc toi, tu crois à la puissance américaine. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend un cutter avec un hamor, un avion de ligne. Il prend l'avion, il explose deux tours. Quels deux tours? Deux tours qui sont un centre de business dans le monde. Du coup, la bourse mondiale, elle descend de 60%. L'immobilier, il tombe de 40%. Des millions de personnes qui vont au chômage. Toute la maîtrise américaine, la puissance, tu dis la CIA, l'électronique, la AWACS, les trucs, les missiles, hack zéro. C'est quoi le vrai combat à Bataille? C'est quoi? C'est l'Occident contre l'Orient. Les gens, ils croient, ils ont lu les analyses politiques, stratégiques, rien du tout. C'est quoi le vrai combat? Qu'est-ce qui va gagner à la fin des temps? La matière, la technique ou la foi? Alors regarde ce qu'ils t'ont prouvé. Même une foi qui est fausse, comme Sahmar, même cette foi, si quelqu'un y croit dans ce qu'il vit, avec un cutter, il déstabilise le pays le plus puissant du monde. Maintenant, pourquoi est-ce que les Américains se sont plantés? Parce qu'ils ont arrêté le côté humain. Ils ont dit maintenant, c'est la technique qui maîtrise. Le satellite, le système d'alarme, le AWACS, le radar, le missile antimissile. Non, t'as pas compris. Un homme seul, avec une foi et un cutter à 3 francs, tu peux acheter chez un Pakistanais, ex-Afghan, oui. Avec 3 francs, tu peux déstabiliser un pays. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer à Kadosh Baruch Hu? Il a voulu leur montrer qui c'est qui va gagner. L'Occident? Oui, c'est Edom. Ou Ishmaël. Maintenant, Ishmaël, écoutez-moi bien, il a la foi. Il a fait la Brit Mila, il a la foi. Elle est fausse cette foi. D'accord? Oui? Mais il a quand même une foi. Il croit dans quelque chose de spirituel, qui est faux, mais il croit dans quelque chose de spirituel. Mais toi, tu crois entièrement au matériel. Le matériel ne pourra pas te sauver contre une attaque spirituelle. C'était ça le vrai combat. Ils ont montré leur force. Vous comprenez ou non? Et même si quelqu'un va dire, bon, mais Baruch HaShem, les Américains, ils ont repris le dessus. Ils n'ont rien repris du tout. Ils ont dit, si encore un deuxième coup comme ça, ils ont renfloué toutes les bourses du monde. Mais ils savent que si un deuxième coup comme ça, la bourse, elle saute. Si la bourse, elle saute, l'économie mondiale, elle saute. Je vous dis tout de suite. Hein. Tous les dollars, ils sont à 20 centimes. Et si le dollar il est à 20 centimes, rien ne vaut plus rien dans le monde. Parce que tout est indexé sur le dollar. Donc tu crois que t'es riche, t'es pauvre. Tu crois que c'est beau, c'est moche. Tu crois que c'est fort, c'est faible. Tous les repères, ils disparaissent en 5 minutes. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut te montrer, c'est moi qui maîtrise les repères. C'est moi. Tu crois que c'est toi? C'est moi. Qu'est-ce qu'ils font? Et si vous allez me dire, mais tu veux la preuve? Regarde. Quelles sont les conséquences des deux tours? Moi, j'ai lu des articles. Ils ont eu un retour de spiritualité très très fort aux États-Unis. Les gens, ils sont retournés à l'église. Les gens, ils sont retournés voir le pasteur. Ils ont institué la prière au travail. Ils sont mis tous à chanter dans des chorales. Le New York est moyen. Il a dit maintenant, j'ai compris, c'est plus la course au business. Il faut que je retrouve des vraies valeurs. Il faut que je retourne dans ma famille. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je m'occupe de ma femme. Comment? Regarde, un coup de cutter, regarde le potentiel de teshuva qu'il a fait Hachem. Regarde, un coup de cutter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même le goy, il a compris que tous les repères qu'il a pu créer pendant des dizaines d'années, c'est tous des faux repères. Parce qu'il a vu que la sexualité, elle lui apporte rien. Il a vu que la bouffe, elle lui apporte rien. Il a vu que la surconsommation, elle lui apporte rien. Il a vu que la surinformation, elle lui apporte rien. Pourquoi? Il a dit parce que, et ça je l'ai entendu, des gens qui étaient interviewés dans la rue, des New-Yorkais, ils ont dit, il faut qu'on redonne un petit peu d'essentiel à notre vie. Mais Rabotai, comment le goy, il a compris qu'il faut remettre de l'essentiel à ta vie, et le juif, il n'a pas compris? Il veut être encore plus superficiel. C'est lui qui va faire la mode, c'est lui qui va faire la bouffe, c'est lui qui va faire le sexe. Vous savez que les deux plus grands producteurs de pornographie en France, c'est des juifs. La mode, elle est décidée par elle est vendue et décidée par des juifs. Le business, il est brassé. Les goyims ont l'argent, mais les juifs, ils brassent l'argent dans le business. C'est incroyable. Pourquoi? Pour tomber dans le piège du superficiel. Donc tous les repères, ils sont écroulés. Qu'est-ce qu'on a gagné maintenant? On n'a rien gagné. On a gagné quelques jours où il est en train d'installer le terrain. C'est quoi le terrain? Regardez ça, comment c'est incroyable. Quand Abraham Avinu, il a été pour faire la Akedat Yitzhak. C'est marqué Vayar et Amakom Mirachok. Vous lisez tous les matins. Vayar et Amakom Mirachok. Il a vu l'endroit où il devait aller pour faire la Akeda. Il l'a vu de loin. Le Midrash, il dit El Makom et la Kadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué Amakom, c'est Hachem. Quand on dit la Akeda Amakom Baruch Hu, c'est quoi Amakom? C'est la Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vayar et Amakom Mirachok? Ça veut dire quoi? Hachem, il a vu. Avram, il a vu Hachem de loin. C'est quoi? Il a vu Hachem de loin. Écoutez bien ce qu'il dit. Le commentaire, il s'appelle Avat Israël. Il explique comme ça. Il dit juste avant l'épreuve, juste avant d'arriver à l'épreuve, Avraham Avinu, il a senti qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est écarté de lui. Il a senti que Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné de lui. Et comme il s'est éloigné de lui, il est troublé. Alors regardez un truc incroyable. Nous, avant une épreuve, on est troublé. Et après une épreuve, on est renforcé. Nous, on croit que parce qu'avant une épreuve, on est troublé parce qu'on perd confiance en soi. Et quand on a dépassé l'épreuve, on croit qu'on est fort, parce qu'on a retrouvé la confiance en soi, parce qu'on a vu qu'on a surmonté l'épreuve. Ça, c'est le côté psychologique des choses. Mais c'est quoi le côté spirituel des choses? C'est qu'avant une épreuve, Akadosh Baruch Hu, il s'écarte de toi. Donc, puisqu'Hachem, il s'écarte de toi, tu as peur. C'est pour ça que tu es troublé. Mais après l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il revient avec toi. Et quand il revient, tu t'es renforcé. C'est ça, Vayar et Tamakom Mirachok. Mais alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'écarte de toi avant une épreuve? C'est très simple. Il dit le Havat Israël. Akadosh Baruch Hu, il s'écarte de toi. Pour que toi, tu sois confronté avec l'épreuve, avec une seule arme. Quelle arme, ta émouna? Si tu prends ta émouna et tu dépasses l'épreuve, tu vas grandir. Mais si Akadosh Baruch Hu, il reste avec toi, automatiquement, tu ne pourras pas grandir. C'est comme ton père. Ton père, il veut que tu apprennes à faire du vélo. Alors, il te tient la selle. Il te dit, vas-y, mon fils, pédale, pédale, pédale. Mais à un moment, ton père, il va te lâcher, sinon tu ne vas jamais apprendre à faire du vélo. Donc, au moment où ton père te lâche, tu es troublé parce qu'il voudrait que tu continues à te tenir. Et à ce moment-là, tu pédales fort et tu sais faire du vélo. Mais si ton père ne te lâche pas, tu ne sauras jamais faire du vélo. Donc il y a un moment où Akadosh Baruch Hu va te lâcher. Comme tes parents, ils t'aident, à un moment, ils vont te lâcher. Parce que comment tu vas devenir un adulte si ton père ne te lâche pas? Donc ton père te lâche, tu deviens un adulte. Ta femme, elle te met en face de tes responsabilités, tu deviens un père. Ton mari te met en face de tes responsabilités, tu deviens une mère. Tes enfants, tu les mets en face de leurs responsabilités, ils deviennent des adultes. Donc dans la vie, tous les gens qu'on veut faire évoluer, on les lâche à un moment. Comment ils s'en sortent? Parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Toi, tu crois en ton rôle de père, tu deviens un bon père. Tu crois à ton rôle de mère, tu deviens une bonne mère. Tu crois à ton rôle d'enfant, tu deviens un adulte. Tu crois à ton entreprise, tu fais éclater ton chiffre d'affaires. Tu crois dans ton magasin, tu fais marcher ton magasin. Tu crois en Dieu, tu fais exister Dieu. Donc c'est quoi le rendez-vous qu'on a avec la croyance? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous lâche. Oui ou non? Maintenant, jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de nous lâcher. Parce que malgré que les béné Israël, ils voyaient qu'Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il les lâche. On dirait l'Inquisition que Dieu il les lâche. On dirait les pogroms que Dieu il les lâche. Mais les béné Israël, malgré qu'ils voyaient que ça avait l'air que Dieu les lâchait, ils gardaient la Emouna. Ils n'avaient pas peur. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, ils pouvaient leur parler Bekel Shakai. Ils pouvaient leur dire Shakai. Parce que les béné Israël, même s'ils voyaient que la vie était dure, ils avaient la Emouna. Pourquoi? Parce que les béné Israël, c'était des adultes. Et un adulte, même quand il voit que ça va mal, il sait que ça va aller bien à la fin. Vous comprenez? Parce qu'un enfant, quand on lui fait une piqûre, il dit ça fait mal la piqûre. Mais le père, il sait qu'avec cette piqûre, on va lui enlever la polio. Le père, quand il tire l'oreille à son fils, le fils, il dit que ça fait mal. Mais quand il a 20 ans, le fils, il dit papa, heureusement que tu m'as tiré l'oreille, sinon je serais devenu un voleur. Donc comme malheureusement, on met 20 ans à se rendre compte que la douleur qu'on nous a fait, c'est un service qu'on nous a rendu, donc on a toujours 20 ans de retard. Qui c'est qui n'a pas 20 ans de retard? Celui qui a la Emouna. Les Avot, Avraham, Israël et Yaakov, ils savaient très bien que même s'ils ne voient pas le résultat de la promesse d'Akadosh Baruch Hu, ils savent que Dieu va tenir la promesse, donc ils n'ont pas peur. Donc Hachem, il peut leur parler, Bekel Shakai, oui ou non? Mais les bénis Israël qui sont en Égypte, ils sont assimilés avec les Égyptiens. Eux aussi font un Vodazara. Ils refusent de faire la Brit Mila. Ils se marient avec des goyotes. Donc maintenant, ils sont bien dans la matérialité. Quand Akadosh Baruch Hu vient, il leur dit « Shakai », ça ne les intéresse pas. Parce que comme ils ne sont pas essentiels, ils sont superficiels. Et comme ils sont superficiels, ils n'ont pas d'émouna. Puisque là, l'émouna, c'est de voir à l'intérieur des choses, de voir derrière les repères. Mais eux, ils ont des faux repères. Ils disent « Hey, on mange tous les jours. Hey, on est bien, on travaille, on a un boulot. » Mais t'es un esclave. T'es moins qu'un chien. Vous savez qu'un juif en Égypte, il valait moins que son poids en terre. Parce que quand il manquait des briques dans les murs, on mettait des enfants à la place. C'est marqué dans le Midrash. Alors comment les bénis d'Israël, ils ont pu dire à Moshe Rabbeinu, et c'est la paracha cette semaine, comment ils ont pu dire les bénis d'Israël, Tov avod et Mitzrayim mi motenu bamidbar. Ils ont dit, comment ils ont pu dire, c'est mieux pour nous de travailler en Égypte que de mourir dans le désert. Mais je ne comprends pas, c'était quoi la vie en Égypte? Mais Rabotai, les camps de la mort, c'est un camp de vacances à côté de l'Égypte. C'est un camp de vacances. Alors comment ils ont pu dire on était mis en Égypte? Écoutez-moi bien. Parce que quelqu'un, il préfère le confort d'un faux repère, oui, que l'inconfort de la maturité. Parce que l'aïmouna, ce n'est pas confortable, puisqu'il faut assumer. L'aïmouna, ce n'est pas facile, puisqu'il faut se battre. D'être un adulte, ce n'est pas facile, puisqu'il faut se confronter avec la réalité. Mais le pire des esclavages, c'est l'immaturité. Mais qui c'est qui comprend que l'esclavage, que l'immaturité, c'est un esclavage? Celui qui est mature. Mais celui qui est immature, laisse-lui sa télé, laisse-lui sa bouffe, laisse-lui sa petite sexualité à 2,30 francs. Laisse-lui son petit magnétoscope. Il est bien, laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Il est bien en Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Il est bien en Égypte. C'est ce qu'ils ont dit. Tov avod Mitzrayim. Regardez comment c'est beau le pasouk. Je vais faire un petit chat personnel. C'est pas marqué. Qu'ils ont dit, ils ont dit les bénis d'Israël. C'est mieux pour nous de servir l'Égypte que de mourir dans le désert. Pourquoi ils n'ont pas dit c'est mieux pour nous de vivre en Égypte que de mourir dans le désert? Parce que c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est la matière. L'Égypte, c'est la société de consommation. L'Égypte, c'est les limites. L'Égypte, c'est l'esclavage. Maintenant, tu es esclave de tes passions, tu es esclave de ton corps, tu es esclave de la télé, tu es esclave du fric, tu es esclave de la voiture du voisin, tu es esclave. Ça, c'est quoi? C'est Metsarim. Parce que Mitzrayim, ça veut dire Égypte, et Metsarim, ça veut dire limite. Maintenant, un homme, il sert ses limites, il est esclave de ses limites. Écoutez-moi bien, même quelqu'un qui est un grand matérialiste, il sait qu'au fond, il ne vit pas. Donc la Torah, elle ne pouvait pas dire, c'est mieux pour nous de vivre en Égypte que de mourir dans le désert. Parce qu'il savait, la Torah, elle sait qu'un matérialiste, il sait qu'il ne vit pas au fond. Il n'est pas vivant. C'est quoi Motenu Bamidbar? C'est quoi Motenu? Mourir dans le désert. C'est quoi Midbar? C'est le désert? Non. Le Midbar, c'est l'étude de la Torah. Parce que la Torah, elle dit, la Torah ne s'acquiert que chez celui, chez Naaseka Midbar, qui se rend comme un désert. C'est quoi un désert? C'est quelqu'un que tout le monde peut piétiner. Donc il a la Hanava. Il n'a pas d'orgueil. Donc c'est pour ça qu'il peut apprendre la Torah. Et aussi dans le désert, tu emmènes juste ce que tu as besoin. Tu as un bout de pain, un peu d'eau et un sac. Celui qui veut étudier la Torah, il ne va pas emmener avec lui ses 4 magnétoscopes, ses 5 commodes, ses 6 chambres à coucher. Il part avec ce qu'il a besoin. Donc la Torah, c'est quoi? C'est le Midbar. Motenu Bamidbar, c'est quoi? C'est la mort dans le désert. C'est quoi mourir dans le désert? En la Torah niknit et la bemish et memit atzmo aléa. La Torah ne s'acquiert que celui qui meurt pour elle. C'est quoi mourir pour la Torah? La Gemara dans Tamid a dit arot selihyot yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Parce qu'il faut mourir, il faut tuer ton yetzerara. Il faut tuer ta bêtise. Il faut tuer ta petitesse. Il faut tuer ta mesquinerie. Il faut tuer ta flemme. Il faut tuer tout ce qui est négatif en toi pour que le positif y vive. Donc c'est quoi motenu Bamidbar? C'est mourir pour le Emet. Les Bnei Israël, ils ont dit, on préfère travailler. Parce que tu es un esclave. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu travailles pour le goy. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour la société, tu travailles pour tes impôts. Je ne comprends pas tes cadres. Tu donnes 47% de ton salaire. Donc qu'est-ce que tu fais? Les gens gagnent 50 000 francs par mois, ils ont 5 000 francs d'argent de poche. Tout le reste, ça part aux impôts. Qu'est-ce qu'ils ont? Ou les impôts, le standing. Et le standing, tu es obligé parce que tu es cadre. Donc s'il te faut 40 000 francs pour vivre selon un standing de cadre, donc combien, avec combien tu vis, puisque les trois quarts de ton budget, c'est le standing. Vous comprenez ou non? C'est cadre. Donc tu es obligé d'habiter dans le 16e. Donc il faut que tu payes 20 000 francs de loyer. Tu es obligé d'avoir des costards à 20 000 balles. Tu ne peux pas mettre un costard bidon. Tu es obligé d'avoir une voiture à 100 000. Donc quand t'as enlevé les frais de budget de ton standing, qu'est-ce qui te reste comme richesse? T'es pauvre. La preuve, tu vas voir un blindé, tu dis, tu peux me prêter 5 000? Il dit, je peux pas. Tu trouves un mec, il est smicard. Il s'arrange un peu, il gagne 10 000. Tu lui demandes 5 000, il prête 5 000. C'est bizarre. Parce qu'il est riche, lui. Parce qu'il a pas de standing. Toi, t'es pauvre, parce que t'as un standing. C'est tout à l'envers. Tout à l'envers. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est quoi? C'est mieux pour nous de vivre. Ça veut dire que les bénis d'Israël, ils ont dit, on préfère, nous, être esclaves en Égypte, plutôt que d'aller mourir dans le désert. C'est quoi le désert? Tu vois rien, tu n'y as pas, il n'y a rien. Exactement pareil que les bénis d'Israël, Rabotai, ils sont devant la mer. Vous avez lu la paracha de cette semaine? Je vous dis, c'est la paracha de la semaine. Les gens, ils vont voir l'actualité sur CNN ou je ne sais pas quoi. L'actualité, elle est marquée là, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les repères. Quand il a détruit les repères, il nous a troublés. Quand il nous a troublés, il nous a laissés avec la Emouna. La Emouna, c'est quoi? Ou tu assumes et tu deviens un adulte, ou tu n'assumes pas et tu restes un gamin. La Emouna, c'est l'école du devenir. La Emouna, c'est l'école des adultes. Maintenant, comment on va voir? Quel regard on va avoir sur l'actualité, nous? Est-ce qu'on va paniquer et on va attendre de voir un miracle? Ou est-ce que nous, on va croire en Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on va avoir peur? On va faire de notre culotte comme des enfants dans le noir? Ou on va dire, mais il y a un Dieu sur terre? Moi, combien de fois des gens ils viennent me voir et me disent, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu les attentats, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais vous êtes des juifs, vous êtes des goyims? Mais on est des juifs! Un juif, il a Dieu avec lui! Le goy qui n'a aucun repère, le goy qui vit dans l'arbitraire, le goy qui vit dans la science, qui pense qu'il est un cumul de particules, je comprends qu'il a peur! Parce que quand ça se désorganise, il a peur! Je comprends que quand il reçoit une enveloppe, il a peur de l'ouvrir parce qu'il a peur qu'il y a de l'anthrax dedans. Mais toi, mon frère, t'es juif. Toi, tu sais que Dieu est puni pour les avérot et il récompense pour les mitzvot. Toi, tu sais, c'est ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. Une fois, il était en train de marcher pendant la guerre et il y avait des tirs de fusil parce qu'il y avait les Prussiens et je sais pas qui se tiraient dessus. Et il y a quelqu'un, il a dit au Chafetz Chaim, baissez la tête. Il a dit, il y a des balles de partout. C'est ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. Il a dit, la balle, elle connaît son destinataire. Ça veut dire que depuis 5000 ans, Akadosh Baruch Hu, il a préprogrammé que ce morceau de plomb, il est homogène avec cette cervelle-là. Donc il ne va pas aller dans une autre cervelle. Ah, tu n'es pas croyant? Alors tant pis pour toi. Ah, tu es croyant? Alors de quoi t'as peur? De toute façon, c'est impossible que tu meurs un autre jour que le jour de ta mort. T'as pas compris encore? C'est impossible que tu meurs un autre jour que le jour de ta mort. C'est impossible que tu attrapes une maladie que tu ne mérites pas. Alors t'as peur de quoi? D'attraper l'anthrax? Ça n'existe pas, ça. Tu es un Ben Israël. Tu mets tes fénines le matin. Tu manges cachère. Ta femme, elle va au mikvé. Tu pries tous les jours. Donc Dieu est là. Pourquoi tu as peur? Comme le goy. Le goy, c'est un moineau. Vous avez vu un moineau? Comment il est quand il y a un aigle au-dessus? Il fait comme ça, le moineau. Fait. C'est normal. Il est paumé. Mais on n'est pas des moineaux, Rabotai. Nous, on est des aigles. On vole au-dessus de la situation, nous. On est spectateurs. On les voit en train de se déchirer. On n'a rien à voir là-dedans. Je vous recouvre comme c'est marqué dans la Gemara dans ce tag. Je vous recouvre, il dit. D'abord, quand je vous recouvre, il menace les bénis d'Israël. D'abord, il tape sur les goïms pour que les bénis d'Israël réfléchissent. Qu'est-ce qu'il peut leur faire? Pour l'instant, Hachem ne nous a rien fait. Il n'a pas remarqué encore. Donc, nous, qu'est-ce qu'on est spectateurs? Hachem lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça vaut le coup de réfléchir ou non? Pourquoi tu paniques, toi? Je vous recouvre, il a remis les pendules à l'heure. Il a remis les choses à niveau. Rabotai. Vous allez là-bas maintenant, à l'endroit où les deux tours sont écroulées. C'est incroyable. Comment il s'appelle? Ground Zero. Niveau zéro. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est Rav Pinto qui a raconté ça, c'est incroyable. Il a été là-bas, il a vu Rav Pinto. Il y a un grand panneau, c'était un panneau qui était accroché au dernier étage. C'était un restaurant qui était sur le dernier étage de là-bas. Vous savez ce qui est marqué là-bas? Sur ce panneau? Il y avait marqué ici, vous êtes au sommet du monde. Hachim, il a dit, pour qui tu te prends? Heck, Ground Zero. Maintenant, tu redescends par terre. 150 pieds sous terre, ils sont devenus. 150 mètres, parce que vous savez que ça a brûlé jusque dans les fondations. Mais pour qui tu te prends? Tu crois à la puissance? Ouais. Avant, ils avaient une morale, ils disaient, ils marquaient sur les dollars. Ouais. Nous travaillons avec Dieu. Ah, maintenant, ils ont dit, on est devenu Dieu. Hachem dit, vous êtes devenu Dieu, c'est moi Dieu. C'est moi. Un cutter, trois brels, des hamorim. Je ne sais pas si vous comprenez, qu'est-ce que c'est le QI d'un terroriste? C'est de la folie d'une lourdeur pareille. En plus, Dieu, pour se moquer d'eux, les a prévenus. Le FBI, ils les ont trouvés. Les Français, ils les ont prévenus. Tout le monde les a prévenus. Et ils ont été dedans. Parce que Hachem, il veut te dire, regarde, quand je me moque de toi, même quand je te préviens, je te plante. C'est quand je vous prie d'y aller, c'est Yahak, comme ça. Et on maîtrise tout, on contrôle tout, on maîtrise tout. C'est vrai que le lendemain de l'attentat, il y avait 10 000 agents et en 5 minutes, ils ont retrouvé tout l'emploi du temps. Oui, qu'est-ce que tu veux après? Qu'est-ce que tu veux après? Non, les gens, ils prennent plus l'avion. Oui, rien du tout. Ça veut dire quoi? Rabotaille. Ou on va tomber dans le piège du goy, et on va être comme des petits moineaux, on va paniquer comme ça. On va dire, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit aux informations? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais les informations, on les a déjà. On sait déjà ce qui va se passer. Tout est marqué, Rabotaille. Ah, qu'est-ce qui est marqué? Il s'est marqué qu'il va faire très noir. Et que dans le noir, on va tester la émouna de quelqu'un. Évidemment qu'il faut du noir, parce que s'il fait clair, il n'y a pas d'émouna. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il éteint la lumière. Il éteint la lumière. Tous les faux repères, il les détruit. Maintenant, c'est quoi les sources de lumière pour nous, Rabotaï? Vous croyez que nous, on est éclairés par les lampadaires. Nous, notre lumière, c'est les Chachamim. C'est les Talmidei Chachamim. C'est ça notre lumière à nous. Vous regardez LCI, vous regardez CNN. Vous savez ce que je regarde, moi? Moi, je regarde la nécrologie, moi. Moi, je regarde les rabbanim qui meurent. Tel gadol, il est niftar. Tel gadol, il est niftar. Tel gadol, il est niftar. Rav Shach, il est niftar. Tel rav, il est malade. Tel rav, il est malade. Tel rav, il est malade. Moi, c'est ça que je regarde. Qu'est-ce que je vois? Je vois quand je vois où il éteint la lumière. Pourquoi Hachem, il éteint la lumière? Pourquoi? Tu sais, un moniteur, il est avec son groupe. Quand le groupe, il est perdu, il regarde le moniteur. Mais si le moniteur, il tombe dans les pommes, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai donné des vrais repères, vous avez cherché les faux repères. Je vous ai donné des rabbanim, vous avez compté sur CNN. Ah, maintenant, qui c'est le rav? C'est le présentateur du programme d'information. Ah, les gens, ils sont comme ça. Oh, on dirait la Hamida. On dirait la Chazara. Comment ils répondent Amen, Kenny Ratson, à chaque fois que le présentateur de télé, il ouvre la bouche? Ils ont dit, les rabbanim, laisse tomber. Ah, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ah, laisse tomber. J'éteins la lumière. Qui c'est qui va voir dans le noir maintenant? On va voir. Qui c'est les adultes? On va voir. Hachem, il éteint la lumière à Bretagne. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a aucune solution. Les goyim, ils te disent, il n'y a aucune solution. Les Israéliens, ils te disent, il n'y a aucune solution. C'est ce qu'il a dit Sharon. Sharon, ce n'est pas un grand religieux. Ils lui ont demandé, quel est l'avenir d'Israël? Il a dit, il n'y a aucune solution économique, il n'y a aucune solution politique, il n'y a aucune solution sociale. Il a dit, Atkol Taloui Beribono Sher Olam. Tout dépend du maître du monde. Et lui, je vous dis, mais pas les téfilines le matin. Et Shimon Peres, encore, lui, il a dû les vendre, ces téfilines, d'accord? Donc, malgré ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui, Rabotaï, au niveau logique, il voit qu'il n'y a aucune solution. Qu'est-ce que tu vas faire avec un peuple palestinien qui est élevé dans la haine depuis 30 ans? C'est-à-dire que même s'ils doivent mourir, ils veulent que le juif, il meure. C'est fini. Tu vas discuter de quoi? Tu vas lui donner quoi? Il veut rien, il veut que tu meurs. Il s'en fout, il veut que tu meurs. Même quand tu lui donneras la terre d'Israël, il voudra encore que tu meurs. C'est la haine. C'est terminé, Rabotaï. C'est terminé. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il fait ça? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il détruit tous les repères pour que toi, tu te retrouves en face d'une situation où le seul choix que tu peux faire, c'est est-ce que tu as la Emouna ou est-ce que tu n'as pas la Emouna? Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Sota qu'à la fin des temps, la mitzvah principale, ça sera la Emouna. Et c'est marqué aussi dans le Midrash Tanchuma de cette semaine. Je l'ai vu cet après-midi. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Bessof Agalouyot. Oui? Non, c'est marqué. Atid Agaliot Le Igael Bishar Emouna. La dernière des Galouyot, des exils, elle ne sera libérée que par le mérite de la Emouna. Pourquoi c'est comme ça, Rabotaï? Parce qu'avant, c'était difficile de faire les mitzvot, mais les gens, ils avaient une grande Emouna. Avant, les gens, tu leur disais. Ou vous transgressez Shabbat, ou vous mourrez sur un bûcher au Moyen-Âge. Les gens, ils rentraient dans le bûcher avec joie. Maintenant, les gens, ils transgressent Shabbat pour 300 francs, pour 428 francs, pour 158 francs, le SMIG. Ils transgressent Shabbat. Je ne comprends pas, les gens, ils sont morts pour Shabbat, toi, tu transgresses. Les gens, ils sont morts pour rentrer des téfilines dans les camps de la mort. Et toi, tu ne mets pas les téfilines. Les gens, ils sont morts pour manger cachère. Et toi, tu ne manges pas cachère. Alors qu'aujourd'hui, le cachère, mais c'est la folie, même le goy, il veut manger cachère. Avec la vache folle. Même le goy, il mange cachère. Les gens, la religion, qu'est-ce que tu regardes? La composition du produit. J'adorais ça, moi. Avant, les juifs disaient, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes la composition. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a 2% de graisse animale, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé la maladie de la vache folle. Exprès pour ça. Comme ça, même toi, le non-religieux, tu dis, mais il y a quand même 2% de graisse animale. Alors mange-le, au pire, tu vas devenir une folle, comme le maire. Tu seras une grande folle, ça fera une folle de plus. Pourquoi t'as peur de 2% de graisse animale? Exprès, Hachem, il a envoyé la vache folle. Tu te moques des religieux parce qu'ils regardent les compositions. Toi, maintenant, le premier, tu vas demander la traçabilité. Toi, tu demandes la traçabilité, toi, Hamor, que t'as mangé du boudin pendant des années dans les petits lus. Maintenant, tu parles de la traçabilité? T'as mangé des bonbons créma avec du taref pendant des années et t'étais fier. Et il y en a même qui faisaient la bracha. Alors que c'était du chien. Et maintenant, tu t'énerves. Alors voilà, je t'ai fait la vache folle, maintenant tu vas voir pourquoi la religion, elle a parlé des 2% et des 3%. Voilà, maintenant t'as compris maintenant. C'est incroyable. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué quand les béné Israël, ils n'écoutent pas les rabbins, on leur envoie des goïms pour leur faire la morale. C'est l'archouma. Tellement t'es un gamin, tellement t'es inconscient, il faut que le goï, il va te dire, mais arrêtez monsieur, arrêtez de manger, c'est pas bien, arrêtez de faire ça. Il faut que le goï t'explique, écoutez madame, c'est pas le moment d'avoir des relations sexuelles, parce que quand vous êtes juste après la nida, vos muqueuses, elles sont en hypersensibilité, donc la femme, elle doit être au repos, parce que sinon ça provoque le cancer du vagin. Non, tu dis non, non, nous sommes pas religieux, alors attrape le cancer, ils sont brêles ou quoi, attrape le cancer, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que jusqu'à quand il faut que la science, elle vienne t'expliquer que la Torah, elle a raison. Mais il ne faut pas être idiot. Alors que Jourou, il a dit, on rigole plus maintenant. Ça suffit. Je vous ai laissé vous amuser. Je vous ai laissé rêver. Maintenant, j'éteins la lumière. Je casse les repères. Il n'y a plus de repères. Et j'éteins la lumière. Il n'y a plus de rabbanim. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et c'est marqué comme ça. C'est marqué à la fin des temps. Tous les vieux rabbanim, ils vont mourir. Il va rester que des jeunes rabbins. Et chacun, il va dire qu'il tient la vérité. Et toi, au milieu, tu vas être perdu. Paumé complètement. Tu vas... Avant, on avait Baba Salé, Rabotai. Avant, on avait Rav Char. Mais non, on n'a que des petits jeunes, des petits clowns qui viennent et tu sais plus, tu dis, oh, il a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Exprès, Rabotai. Vayar et tamakom mirachok. Akjboku, il a créé un trouble. Pourquoi? Pour que tu assumes. Tu vas devenir un adulte, tu ne vas pas devenir un adulte. Exactement pareil. Il y a un enfant, il a fait une grave bêtise envers son père. Il a fait une grave bêtise envers son père. Alors il va chez sa mère, il dit, maman, je t'en prie, parle à papa. La mère, elle dit, débrouille-toi avec ton père. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Alors il va voir. Il va voir son frère, il dit, écoute frangin, va chez papa, moi je regrette ce que j'ai fait. Le frère, il dit, je peux pas, papa, il est en colère, tu débrouilles avec ton père. Il va voir son oncle, il dit, tonton, je t'en prie, va parler avec papa. Il dit, je peux pas, ton père, il est en colère, tu débrouilles avec ton père. Rabotaille, on est en train de faire tout le tour, là. Il y en a qui se réfugient dans l'argent, il y en a qui se réfugient, il y en a qui croient que c'est géographique, il croit que c'est en Israël ou ailleurs, il y en a qui croient que c'est physique, il croit qu'il y en a que c'est mental, il y en a qui croient que c'est... Tout le monde te dit, débrouille-toi avec ton père. Débrouille-toi avec ton père. Maintenant, tu vas rentrer dans le bureau de ton père. Ton père, il est tourné, regarde la fenêtre. Soit il va tourner la tête, il va te regarder, il va te jeter, il va dire, allez, dégage d'ici, toi, tu vas crever de la mort. Ou il va te sourire, il va dire, allez, viens. Tout ça, c'était pour que tu te réveilles. Viens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un beau tag, beaucoup, il a créé la situation. C'est pour ça que toujours les gens me demandent, mais écoutez, ils me disent, essayez de nous rassurer. Je dis, mais si je vous rassure, vous faites plus tes choix. Et le but, c'est de la prise de conscience. C'est comme si un enfant, juste avant l'examen, avant qu'il passe l'examen, tu lui dis, écoute, j'ai donné 10 000 francs à l'examinateur, c'est tranquille. Il va travailler, il ne va rien faire. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent qu'on les rassure. Avec toi, avec des solutions à court terme. Il n'y a pas de solution à court terme. Il n'y a pas. Ah, vous allez me dire, mais Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser comment à nous? Mais quel chakaï? Ou Yudke Vavke? Une fois, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir à nouveau la Shoah? J'ai dit, je ne crois pas. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce qu'on n'est pas au niveau. On n'aime pas au niveau. Un enfant que tu sais que quand il prend une baffe, il va changer, tu peux le frapper. Mais un enfant que tu sais que même la baffe, il ne va pas la comprendre. Au lieu de dire Dieu, il m'envoie un message, il va dire c'est de l'antisémitisme. Charlotte, t'as rien pigé. Ouais. Le goy, c'est un outil. C'est marqué dans le Zohar. Que je vous crois, il a créé, il a troupeau, c'est les béné Israël, c'est des moutons. Et il a créé des chiens de berger, c'est Amalek. Quand les moutons ils s'éloignent du troupeau, Hachem, il envoie Amalek. Et toi, le charlot, tu fais un procès au chien. Tu fais le procès pas bon, tu fais... Mais Dieu, il en a des chiens. Il en a des millions. Même Poliakov. Poliakov, qui est le spécialiste mondial de l'antisémitisme, après tant 30 ans d'études et 30 ans d'analyses et 30 ans d'interviews de nazis, il a dit, l'antisémitisme n'a aucune base sociologique, aucune base historique, aucune base économique. Il n'a pas osé dire que la seule base de l'antisémitisme, c'est spirituel. Parce que Dieu, il a créé la haine du juif pour que le juif, il se retourne vers Akadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas. Pourquoi l'antisémitisme? Réfléchissez. Ça fait 4 générations que tu es marié avec une Allemande. Pourquoi il te dit que tu es juif? Parce que tu refuses ton identité. Pourquoi il t'oblige à mettre une étoile jaune? Parce que tu ne veux pas mettre la kippa. Pourquoi il veut te mettre dans un ghetto? Parce que tu veux te disperser parmi les goyim. Pourquoi il a la haine? Rien que parce que tu es juif. Ça veut dire le statut que tu as refusé, il te l'impose. Et ça, c'est incroyable. Le statut que tu as refusé, il te l'impose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il t'a envoyé des gens qui n'ont pas honte d'être religieux. Mais quelle religion? Celui-là, il se met en turban. Celui-là, il se met en djellaba. Il le crie partout. Celui-là, il a une radio, il a une deuxième radio. Celui-là, il vient faire des mosquées sur la place de l'étoile. Pourquoi Hachem les a envoyés? Vous n'avez pas compris? Parce qu'il veut dire, regarde Charlot, toi, tu as une Torah de folie et tu as honte. Et lui, il a des lourdeurs, un courant, mais rempli de bêtises et de contradictions et de lourdeurs que n'importe quel philosophe qui a un BEP de philosophie, il voit que ça ne tient pas la route. Et lui, il est au premier rang. Pourquoi? Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il veut te dire, regarde l'archouma pour toi, regarde. Tu ne t'intéresses pas, voilà ce que je t'amène. Je vais vous dire pire encore. Je vais vous dire pire. Pourquoi il y a la grande question maintenant? Est-ce que Jérusalem, il revient au peuple juif? Est-ce qu'il repart chez les goyim? Est-ce que les Arabes, ils ont droit? Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi? Mais même les Arabes, ils l'ont dit. Ils ont dit, si les bénis Israël ne veulent pas Jérusalem, parce que pour eux, c'est aucun symbole religieux. Pour eux, Ashkelon, la Californie ou Jérusalem, c'est pareil. Puisque ça ne les intéresse pas, on va le reprendre. Parce que l'intérêt de Jérusalem, c'est une chose, c'est l'endroit de la résidence divine. Sinon, c'est pas mieux qu'Ashkelon ou ailleurs, c'est au contraire, c'est que des cailloux. Pourquoi c'est la plus belle ville du monde? Parce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a choisi de résider. Mais si nous, les bénis Israël, ça ne nous intéresse pas la résidence de Dieu. Alors Dieu, il dit, alors les Arabes, ils disent, rendez-nous la terre. Rendez-nous la terre. Puisque c'est une terre sainte quand les Juifs sont saints. Mais si les Juifs ne sont pas saints, on la reprend. Et c'est marqué qu'au Mashiach, c'est les Arabes qui vont donner les clés d'Yerushalayim au Mashiach. C'est eux qui vont donner les clés. Vous savez que quand Moshe Dayan il est rentré au Kotel, il y a un arabe qui est venu le voir, et qui est d'une grande famille, qui depuis la destruction du temple, il gardait toutes les clés des portes de Yerushalayim. Il a dit, puisque vous êtes revenu sur la terre, je vous redonne les clés. Parce qu'ils avaient une transmission de père en fils depuis 2000 ans, qu'un jour les juifs y vont revenir, et pour l'instant nous sommes les gardiens des clés de Jérusalem. Mais si la majorité des Israéliens, ça ne les intéresse pas Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit l'arabe? Eh, il faut nous rendre les clés, parce que nous, on est les gardiens en attendant. Parce que, regarde, réfléchis, qu'est-ce que maintenant, les Arabes, ils ont besoin de parler du troisième lieu de l'islam? Pourquoi ils veulent mettre une connotation religieuse? Mais il n'y a pas de religion au niveau de l'islam, il n'y a pas de religion à Jérusalem. C'est pourquoi? Encore une fois, au lieu de regarder CNN, réfléchissez comme des juifs. C'est que Dieu t'envoie des messages. Il te dit, toi, tu as enlevé le côté religieux de Jérusalem. Alors eux, ils le mettent, le côté religieux. Et ils mentent! Alors pourquoi ils mentent les Arabes en disant que que Jérusalem, c'est le lieu de religieux? C'est pourquoi? À quoi ça sert? Pour que les juifs, ils se lèvent et disent, mais non! Jérusalem, c'est le lieu de la religion juive! Regarde ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il t'oblige à accepter ton identité. Vous ne comprenez pas encore? C'est que tout ça, c'est une grande mise en scène pour t'obliger à assumer ta religion, pour te tourner vers Akadosh Baruch Hu, pour revenir les Ribbono Shel Olam, Avinu Shema Shabaim, le Père qui est dans le ciel. Mais tout ça, Akadosh Baruch Hu, il le fait. À quel niveau il le fait? Il ne le fait pas au niveau qu'El Shakaï. Parce qu'il voit qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'assumer. Oui, nous, on a besoin de voir des résultats parce que nous sommes des consommateurs. Alors, il est obligé de se conduire avec nous. Yudke Vavke, Rabotai. Yudke Vavke. Vous comprenez ça? Et c'est marqué dans la parcha cette semaine. C'est marqué que les bénis Israël sont retrouvés dans la mer. Ils avaient les Égyptiens derrière eux. Ils avaient la mer devant eux. Ils avaient les bêtes sauvages de l'autre côté. Et ils avaient la falaise de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Exactement pareil que nous, Rabotai. On est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va en Israël, on va ici. En Israël, il y a les attentats. Ici, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? On est devant la mer. Alors, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. On se tourne vers Moshe Rabbeinu. On se tourne vers les Rabbanim. Les Rabbanim, ils se tournent vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Mais dis-leur d'avancer! Alors, on dit, mais on va pas rentrer dans la mer! Oui ou non? Rabotai, c'est marqué. Arrêtez de regarder les informations. Lisez la paracha. C'est marqué dans la paracha. Vayolchou, Bene Israël, Betor Hayam, Bayabasha. C'est marqué. Vermaim, Ayulaem, Choma. Et les eaux étaient pour eux. Ils sont rentrés, les bénis Israël, dans la mer, sur la terre sèche. Et les eaux étaient pour eux, Choma, une muraille de protection. Miminam ou Mismolam, à leur droite et à leur gauche. 7 psukim après, pas beaucoup, 7 après. Il y a presque le même pasouk. C'est marqué, Vayilchou, Bene Israël, Bayabasha, Betochayam. Ils sont rentrés, les bénis Israël, sur la terre sèche, dans la mer. Et c'est marqué Vayolahem Amaim Choma, et les eaux étaient pour eux Choma. Quelle différence entre les deux Rabotai? Dans le premier pasouk, c'est marqué, ils sont rentrés Betohayam, après c'est marqué Bayabasha, dans la mer, sur la terre sèche. Et c'est marqué Choma avec un Vav. Et Choma avec un Vav, ça veut dire une muraille. Dans le deuxième pasouk, c'est marqué Bayabasha, Betohayam. Dans la terre sèche, sur la terre sèche, Betohayam dans la mer. Et c'est marqué Choma sans Vav. Et Choma sans Vav, vous pouvez le lire Chema. Et Chema, c'est quoi? C'est la colère. Il dit le Gaon de Vilna, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait deux groupes au moment du passage de la mer Rouge. Il y en a qui ont compris. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu l'a mis la mer, c'est parce qu'il veut qu'on se jette à l'eau. Même en français, quand on dit à quelqu'un, il faut se jeter à l'eau, les gens ne comprennent pas d'où ça vient. Où c'est marqué, il faut se jeter à l'eau. Il faut se mouiller. Exactement ça. Akadosh Baruch Hu l'a mis la mer. C'est quoi la mer? C'est rentrer dans la mer. Parce que toute la vie, Rabotai, toute la vie des Bnei Israël, c'est comme ça, c'est une mer. Tu dis, il n'y a pas de solution, on ne pourra pas s'en sortir, rentre dans la mer. Tu dis, comment on va se marier? Comment les gens, ils sont mariés dans les camps de la mort? Ça, c'est ça. Le peuple juif, c'est le peuple de l'espoir. On a toujours la mer devant nous et on rentre dans la mer. Vous comprenez ou non? Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué, il y en a qui ont plongé dans la mer, Rabotai. Ils sont arrivés dans l'eau jusque-là. Et comme ils ont fait Messirut Nefesh, ils se sont sacrifiés, la mer elle s'est ouverte, ils se sont retrouvés sur la terre sèche. Betor Hayam, Bayabasha. Et la mer pour eux, c'était Choma, c'était une muraille de protection. Mais il y a des gens à Rabotai, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu que les autres y plongent. Et quand la mer elle s'est ouverte, ils sont rentrés dans l'eau. Ils sont rentrés, Bayabasha, comme il dit le pasouk, sur la terre sèche. Elle était déjà sèche. Betor Hayam à l'intérieur de la mer, mais la mer elle était ouverte. Oui ou non? Donc vous dites c'est facile. Il y en a qui font des efforts et qui se sacrifient pour la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il leur fait un miracle. Et il y en a qui attendent que les autres ils se sacrifient, soi-disant les juifs éclairés. Et quand les autres ils sont sacrifiés, eux ils rentrent, ils arrivent derrière, ils disent on est là, on fait partie du club. Mais non, Rabotai, c'est pas vrai. Parce que c'est marqué que pour ceux qui se sont sacrifiés, Amaim, Ayulahem, Choma, les eaux étaient pour eux une protection. Mais pour ceux qui ne sont pas sacrifiés et qui ont profité du sacrifice de l'autre, c'est marqué Va Amaim, Ayulahem. Réma, une colère. Rabotai, depuis que le monde, il est monde, tout le monde respecte les gens qui font des efforts et tout le monde méprise les tricheurs. Rabotai, quand Mashiach va arriver, il y en a qui vont plonger et il y en a qui vont tricher. Alors tu crois que c'est gratuit de tricher? Pourquoi je vais me casser la tête à faire teshuva? Pourquoi je vais me casser la tête à manger kasher? Pourquoi je vais me casser la tête à être sniout, à aller au mikvé? Pourquoi je vais me cacher à me couvrir la tête? J'attends qu'il y a des tzadikim qui vont faire beaucoup de mitzvot et qui vont amener Mashiach. Et quand Mashiach va venir, je vais liquider mes comptes, j'ai déjà mis des droits sur des billets d'avion et je vais partir tranquillement en Israël. Et tu rigoles quoi là mon frère? C'est marqué dans la paracha. Celui qui a triché, pour lui c'est la colère. Celui qui a fait les efforts, pour lui c'est une protection. Et c'est normal, c'est normal. Oh, jusqu'à quand on va jouer? 6000 ans que le Bnei Israël les attend de Mashiach. Et toi, tu crois qu'au dernier moment, tu vas tricher? Au dernier moment, tu montes dans le bateau, tu dis, Shila, Hachem dit, dégage. Pourquoi? Parce que tout ce travail, toute la situation qu'Hachem il a créé pour que la personne, elle soit confrontée avec sa réalité, qu'elle devienne un adulte. Or, c'est quoi un adulte dans la Torah? C'est un tzaddik. Et c'est quoi un enfant dans la Torah? C'est un rachat. Alors, t'étais un enfant parce que tu croyais dans les faux repères. T'étais un enfant parce que tu croyais à la bouffe, tu croyais au sexe, tu croyais à l'Amérique, tu croyais à tout. Hachem, il a dit, bon, écoute, les faux repères, je les enlève, ça va? Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Qu'est-ce qui reste? La panique. Dans la panique, qu'est-ce qui reste? Il reste la vérité. Tu cherches la vérité ou encore tu crois en CNN et encore tu vas chez les dans la Torah. Tu vas dans la Torah, tu cherches la vérité, tu cherches le Emet. Ah, tu apprends à voir dans le noir. Tu apprends à développer ta Emouna. Tu apprends à développer ta croyance. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te sauver. C'est pour ça que c'est marqué que les Bate Midrashot et les Bate Knessiot, elles vont s'envoler vers le Mashiach. Les gens y croient. Le Bet Knesset, il va s'envoler. Alors toujours, tout le monde pose la question. Et si quelqu'un, il n'est pas dans la synagogue à ce moment-là? Et si quelqu'un, il n'est pas à la Yeshiva à ce moment-là? Donc quand c'est marqué que la Yeshiva, elle va partir avec le Mashiach, elle va aller en Eretz Israël, évidemment que c'est pour ceux qui sont à la Yeshiva. Donc si quelqu'un, il est tout le temps devant sa télé, et on lui dit, attention Mashiach, il arrive, tu crois qu'il va aller à la Yeshiva? C'est pour ça que c'est marqué qu'il y a deux choses qui peuvent sauver un homme des difficultés du Mashiach. Le chesed, la bonté, et l'asok batora, étudie la Torah. C'est la seule chose qui peut sauver quelqu'un, besoin de Mashiach. Le chesed, c'est la bonté que Dieu nous donne. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, pourquoi il y a toujours des pauvres qui viennent? Pourquoi toute la journée on a des demandes? Pourquoi il y a des appels de dons toute la journée? Pourquoi? Ils disent, ah, mais ça suffit, il y en a trop. Combien on donne? Mais Charlot, si tu as besoin de donner, c'est que tu as besoin de prendre sur la tronche. Maintenant que je beaucoup, il te dit, donne la tzedaka parce que sinon je vais prendre d'ailleurs. Il peut prendre des enfants, il peut prendre de la santé. Pourquoi il augmente la tzedaka? Vous n'avez pas compris encore? Parce qu'on a besoin de tzedaka. Si on a besoin de mérite, c'est qu'on n'en a pas. C'est pas le contraire, c'est pas qu'on en a trop. Donc Hachem, il augmente les mérites. Et après, qu'est-ce qu'il augmente à Kjouokou? Il augmente les occasions d'étudier la Torah. Aujourd'hui, tu veux étudier la Torah, tu peux étudier un cours, tu peux l'écouter en cassette, tu peux l'écouter en CD, tu peux l'écouter sur Internet, tu peux l'écouter au téléphone, tu peux recevoir un fax Torah, tu reçois des fax de Dvar Torah, tu peux ce que tu veux. Kjouokou, il a créé les Batei Midrashot. Parce que le but de cette conférence, c'est de vous faire découvrir un Batei Midrash qui se crée, un nouveau Batei Midrash, qui va être dirigé par mon frère. Que je vous envoie une grande force, une grande santé. Et un Beth Amidrash, c'est fait pourquoi? C'est pour amener la lumière. Parce que les Bnei Israël, aujourd'hui, de plus en plus, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de vous mentir, la lumière, elle va baisser. Hachem, il a un variomètre, il baisse la lumière. Un variateur. Donc il va y avoir quoi? Chacun, il va avoir la lumière dans sa tête. Celui qui a étudié la Torah, il aura la lumière. Celui qui n'aura pas étudié la Torah, il va être dans le noir, il va être perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir, il faut se fixer des temps. Et même si quelqu'un dit, mais c'est pas évident, vous savez, on travaille, c'est pas évident, on a pris la rada de regarder la télé tous les soirs, on a peur de vexer la télécommande, je comprends. Ouais. Mais d'un autre côté, Rabotai, quand ma chérie va arriver, ça servira à rien la télécommande, ça servira à rien d'être abonné à Télérama, ça servira à rien d'être sur TPS ou sur Canal+, ça servira à rien. Parce que tous ces gens-là, ils vont augmenter la panique. Parce que sur toutes les chaînes, tu verras la panique, tu verras les morts, tu verras les têtes qui sautent, tu verras du sang jusqu'ici. Tu vas dire « Ah !» Mais si tu as ta Guémara dans la tête, tu as ton pshat dans la tête, tu vois dans le noir, tu fermes les yeux et tu avances. Ça veut dire quoi? La vraie question, c'est de savoir est-ce que tu verras clair ou tu verras pas clair. Comment on appelle Talmid Chacham? Igia le parashat drachim. Ce qui est sage, c'est celui qui a la croisée des chemins. Akadosh Baruch Hu, il donne le choix à celui qui s'est donné les moyens d'avoir le choix. Qui c'est qui a le choix, le Talmid Chacham? Mais celui qui est en Égypte, celui qui est dans l'obscurité, celui qui est dans ses passions, celui qui est dans sa sexualité, celui qui est un chien, comment il va voir clair? Il va être paniqué. Et croyez-moi que la majorité du monde, elle va paniquer. La grande majorité, elle va paniquer. Et la grande majorité des Juifs aussi, elle va paniquer. Beaucoup paniquer. Alors qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas faire partie des paniqués ou des gens qui vont être clairs? Alors cette clarté, il faut la préparer maintenant. C'est pas la veille de l'examen qu'on s'angoisse de l'examen, on prépare l'examen. C'est pas la veille que tu rentres dans le bateau, tu te demandes est-ce que j'ai un brevet de nageur ou non? Faut apprendre à nager maintenant. Parce qu'il n'y aura pas de bouée, Rabotai. Il n'y aura pas de bouée. Il faut être clair. Pourquoi on va mentir? Il n'y aura pas de bouée. Il y aura des gens qui sauront nager, il y aura des gens qui ne sauront pas nager. Où est-ce qu'on apprend à nager au Beit HaMidrash? Heure par heure, jour par jour. Chacun y fixe des heures. Chacun y donne des heures. C'est des heures que tu prends, un bout de Rochma qui rentre. Et c'est marqué dans le Midrash. C'est marqué un Dvar Torah qui rentre dans la tête, un Dvar Ritzanot qui sort. Quand, à chaque fois qu'il y a un mot de Torah qui rentre dans la tête, il y a un mot de moquerie, de bêtise qui sort. Le contraire, s'il y a un mot de moquerie qui rentre, il y a un Dvar Torah qui sort. Les gens, ils croient, ils ont appris la Torah, ils peuvent se permettre de lire et de voir n'importe quoi, c'est faux. Parce que ta Torah, elle peut partir en sucette, coup après coup. On remplace les cases par des cases. Quand la Torah, elle rentre, la pourriture, elle sort. Mais quand la pourriture, elle rentre, la Torah, elle sort, à bouteille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe. Voilà, le Beit HaMidrash, il est là, il n'est pas loin de chez vous. Vous fixez des heures. Il y a des programmes extraordinaires pour tous les genres, pour tous les niveaux. Ça se passe tous les jours, ça se passe tous les soirs, les matins, le soir, le dimanche matin. Même vos femmes, elles seront d'accord de vous laisser partir si elles savent que c'est pour la Torah. Même vos maris aussi. Oui. Et chacun y prend sur lui. Chaque heure de Torah qui est enseignée, chaque heure de Torah qui est étudiée, c'est une heure de lumière qui est apportée. Et c'est cette lumière-là qui nous permettra de voir clair, parce qu'à ce moment-là, nous serons des juifs matures devant HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il a dit à Abraham Avinu. C'est ça qu'Hachem il a dit à Abraham. Abotai, je vous pose une question facile. Pourquoi une éponge, quand vous la jetez contre une vitre, elle ne peut pas traverser la vitre? Mais une balle de pistolet, elle traverse la vitre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est très simple. Si vous avez fait un peu de physique, vous comprenez. Parce que la densité de l'éponge, elle est moins grande que la densité de la vitre. Donc la vitre, l'éponge ne peut pas traverser la vitre parce qu'il y a de l'air dans l'éponge. Elle n'est pas dense. Par contre, la balle, elle est très dense, elle est très condensée. Donc la densité de la balle, elle est plus intense que la densité de la vitre. Donc la balle traverse la vitre. Exactement pareil. On va être Behemoth HaMashiach. Il y a des gens qui vont traverser, il y en a qui ne vont pas traverser. Celui qui est superficiel, celui qui est léger, c'est pour ça que j'ai commencé le cours par la Kedusha et tout ça. celui qui n'est pas essentiel, celui qui est un peu léger, qui est fragile, celui qui est mou, celui qui est une éponge parce qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Oui, il est le contraire, il ne va pas traverser la vitre. Il va rebondir contre Mashiach, il va s'asseoir par terre, il va pleurer. Mais celui qui est entier, celui qui est intègre, celui qui est tamim, parce que tam, ça veut dire complet, il va traverser la vitre. Or, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu? Il lui a dit, tamim, italech lefanai veye tamim. Va devant moi et sois intègre. Je vous ai dit tout à l'heure, le Ramban, il a dit, l'Ibn Israël, à Kadosh Baruch Hu, dans le Bereshit, il a donné toutes les solutions jusqu'à la fin des galoutes. C'est pas pour Avraham que Kadosh Baruch Hu, il a dit ça. Il a dit ça pour nous. Il a dit, sachez qu'il va arriver une génération où la seule chose qui pourra vous sauver, c'est la tmimout. Cette tmimout qu'ils avaient nos parents et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, que pour eux, c'était évident. C'était évident. Il y a le Shabbat, il y a le Shabbat. On va crever de faim, on va crever de faim. Il y a le mikvé, il y a le mikvé. C'est pas grave, on va pas toucher la femme pendant 3 mois jusqu'à qu'on trouve un mikvé. C'est comme ça. C'est cette mimout, Rabotai, qui a sauvé tous les juifs pendant toute la génération. Maintenant, on va arriver devant Mashiach. Comment on va traverser la vitre? Alors, Akjourou, il a dit à Moshe, il a dit à Avraham Avinu, il a dit, Italer lefanam veyetamim. Si quelqu'un il se concentre dans sa Torah, il se concentre dans sa Kedusha, il se concentre dans ses brachot, il se concentre dans la sainteté, il se concentre dans le Beit HaMidrash. Maintenant, il est tam, il est complet, il est entier, il va traverser la vitre. Il n'y a pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, Rabotai. Je vous dis en des mots simples, si vous êtes croyant, il ne faut pas avoir peur. Les gens, ils paniquent, c'est normal qu'ils paniquent. Parce qu'ils n'ont pas l'aïmouna. Ils sont comme des petits moineaux, ils attendent que l'aigle, il les bouffe. Mais c'est lui qui est croyant. Il a la Torah avec lui, Rabotai. On a traversé 2500 ans de persécution. Vous comprenez que c'est de la rigolade ce qu'on a maintenant. Et on panique. Ça veut dire qu'on est des gamins. Alors il faut qu'on se prenne en main. Il faut que les adultes qui sont parmi nous, ils rassurent les enfants. Il faut que les enfants qui sont parmi nous, ils deviennent des adultes. Et bien, Bezrat Hashem, on va traverser toutes ces épreuves sans problème. Et on va accueillir le Mashiach comme des adultes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui.
Hachem, il a attendu tout ce temps pour faire en sorte qu'il y ait le siècle des lumières.
Ah, la dernière étape, au niveau des goïms ou au niveau des juifs?
Non, au niveau du monde, quoi. Pourquoi on a trouvé ce dernier siècle toutes les...
Mais c'est fait exprès.
Au niveau de la science.
Mais c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. D'accord? Maintenant, tant que les bénis d'Israël, ils étaient à fond dans la Torah, les goïms, c'était des sauvages. Il faut essayer de vous rendre compte que Rabbi Akiba, il vivait à l'époque des Gaulois. Maintenant, c'est marqué dans le livre d'histoire que le Gaulois, il a créé le matelas. C'est quoi le matelas? Ça veut dire que le Gaulois, il a compris que quand il met quelque chose en dessous de son derrière, ça fait moins mal que quand il met rien. Je ne sais pas si vous voyez la chorma déjà. Maintenant, le Ramban, qui a vécu des centaines d'années après Rabbi Akiba, le Ramban, il a dit que la semence de l'homme, elle est faite de particules très petite, et chacune de ces particules, elle contient toutes les caractéristiques de l'homme. C'est-à-dire que le Ramban, il a compris l'ADN, il a compris la génétique, il a compris l'ADN, et donc si le Ramban, il a compris, c'est sûr que Rabbi Akiba, il l'a compris. Oui, et le Gaulois, il a inventé le matelas. Maintenant, quand les bénis Israël, ils sont éloignés de la Torah, Rabotai, c'est marqué quand les bénis Israël, ils descendent, le Goy, il monte. Donc tout ce qui a donné accès à la connaissance chez le Goy, c'est le fait que les bénis Israël, ils ont renoncé à la Torah. Et quand il y a eu la Haskalah, quand il y a eu l'émancipation, quand il y a eu la libération des juifs, soi-disant, des ghettos, c'est là que la science, elle a éclaté chez les pathos. Parce que quand la Chorma, elle a quitté les juifs, elle est rentrée chez les goyim. Oui? Maintenant, puisque l'ignorance, elle a été faite pour quoi? La connaissance, elle est là pour éclairer. Et l'ignorance, elle est là pour faire l'obscurité. Donc, puisque les gens, ils refusent la lumière de la Torah, on est obligé de leur montrer une autre lumière. Est-ce qu'ils vont être capables de trouver la vraie lumière ou non? Comme dans tout. Comme ton fils. Tu lui dis, mon fils, ne triche pas. S'il triche, tu lui tires l'oreille. Au bout de 3 fois, tu lui mets une baffe. Pourquoi tu lui mets une baffe? L'enfant, il dit, pourquoi tu me frappes? Ça, tu dis, je t'ai prévenu. Exactement pareil. Avec beaucoup, il dit, je te parle gentiment. Je t'envoie des rabbins sympathiques, je t'envoie des rabbins intelligents, je t'envoie des rabbins profonds. Je t'envoie une Torah intelligente, une Torah intéressante, je t'envoie une Torah qui explose le CNRS. Et toi, tu dis, non, ça m'intéresse pas, c'est dépassé, c'est vieux, c'est archaïque. C'est archaïque. Je vais t'envoyer des scientifiques du 20e siècle archaïque. Je vais t'envoyer. Tu veux? Je vais te les envoyer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, Rabotai. Mais je sais pas, les gens, ils sont fous. Regardez. Ils avaient fait une loi qu'un type, il peut attaquer en procès le type qu'il a mis au monde parce qu'il est né handicapé.
Oui.
C'est extraordinaire, ça. une loi qui est faite pour les oiseaux, là. Comment ça s'appelle, là?
Pyrrhus.
Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire qu'un type, il va chez son docteur, il lui dit, c'est de votre faute si je suis né handicapé. D'accord? Rabotaille, franchement. Qu'est-ce qu'on devrait lui dire à ce type-là? Donc toi, tu regrettes d'être vivant. Donc la seule chose que je peux faire pour toi, je peux te tuer. Je te tue! Comme ça, tu n'attaques personne. Toi-même, t'es heureux, parce que toi, tu dis, j'aurais préféré ne pas vivre. Alors meurs! C'est complètement débile. Alors, puisque le gars, il pense que nous sommes une particule arbitraire qui est déplacée dans l'espace, et que les handicapés sont des erreurs de la nature. Donc pour lui, le normal, c'est normal, et l'handicapé, c'est anormal. Donc toi, t'es là pour gérer le normal. Donc si tu gères pas le normal, tu es condamnable pour l'anormal. Mais qui a dit que les handicapés sont des gens anormaux? T'es malade ou quoi? Hachem, il envoie des fois dans un corps entier, des fois il envoie dans un corps qui n'est pas entier. Pourquoi? Parce que le corps, c'est en fonction du travail que tu vas faire sur Terre. Celui qui a besoin de plus d'outils parce qu'il a plus de travail, on lui envoie un corps normal. Mais celui qui a besoin de moins de travail parce qu'il a une grande neshama et qu'il a fait déjà le trois quarts du travail dans des vies antérieures, on lui envoie un corps handicapé pour pas qu'il pourrisse le travail qu'il a fait dans les vies antérieures. Donc le handicapé, il a une plus grande neshama que toi, Charlot. C'est toi qui n'es pas normal. Pour ça qu'on dit qu'il est patour des mitzvot. Parce que patour, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de les faire. Alors que Hayav, ça veut dire qu'il a besoin. Donc celui qui a besoin d'un tikkun, il est plus bas que celui qui n'a pas besoin. C'est pour ça que le Chazon Ish, il se levait devant un enfant mongolien. Parce qu'il disait, il a une grande neshama. Donc le goy, ce que lui, il appelle anormal, nous, on l'appelle non normal, nous. On appelle le tzadik, nous. Exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et toi, tu rentres dans la logique du goy. Et toi, t'as honte d'avoir un enfant handicapé. Mais c'est l'inverse. C'est que si Hachem, il a jugé que toi, tu es apte à avoir une neshama tellement grande, ça veut dire que tu es une grande temimout. Parce qu'un rachat tordu, il lui aurait pas envoyé une neshama comme ça. C'est exactement l'inverse, la beauté. Vous comprenez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, il étudie pas la Torah pour avoir des références juives, les références goy, elles vont lui troubler la tête. Il devient fou. Encore une fois, il va croire que le beau, c'est ce qui est vrai. Il va croire que le bien, c'est ce qui est normal. Il va voir ce qui est pas normal, c'est ça qui est pas bien. Tout est faussé. Vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas eu des cassettes, franchement, s'il n'y avait pas eu des cassettes sur la pédophilie, on aurait institué la pédophilie normale. On trouve normal qu'un homme il sort avec une femme. C'est normal. Après une femme avec une femme, on trouve ça normal. Un homme avec un homme, on trouve ça normal. Pourquoi on n'aurait pas dit qu'un homme il peut dire, eh ben moi les petits garçons, moi je préfère que les grands garçons. Je trouve ça écœurant, les hommes, mais les petits enfants ils sont purs. Si vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais il y a 20 ans, ça t'écœurait l'homosexualité. On t'a éduqué petit à petit, on t'a expliqué. Les psychologues, ils t'ont dit, oh, vous savez, ça peut arriver à n'importe qui. Les gynécologues, ils ont dit, les généticiens, ils ont dit, tu portes ça de père en fils. Après, les psychologues, ils ont dit, vous savez, c'est une tendance qu'on a à l'intérieur qui s'est à peine dévoilée. Après, on t'a dit, les historiens, ils ont dit, ça a toujours existé, mais on l'a caché. Et maintenant, t'as honte quand t'es pas homo. Alors qu'il y a 20 ans, t'étais écœuré, on te dit, ah, il est homo, ah, t'étais écœuré. Tu vois bien qu'on peut t'habituer à n'importe quoi. Alors viens, on va t'habituer maintenant qu'il faut sortir avec les enfants. Tu vas t'habituer. Mais ils ont été trop vite. Ils ont sorti les cassettes trop vite. Ils ont fait trop loin. Ils ont tué les enfants. Ils ont été trop loin. Mais s'ils les avaient respectés, je te dis, moi, dans 10 ans, on aurait dit un pédophile. Pourquoi pas? Soyez un peu ouvert d'esprit. Arrêtez d'être fermé. Et toi, ils se trouvaient, c'est normal. C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit que le Maboul, il est arrivé quand on a sorti des contrats de mariage entre des hommes et des animaux. C'est à quelle époque du Maboul, les gens, ils se mariaient avec des chiens. Oui? Eh ben, on n'est pas encore arrivé là. Non. Les gens, ils ont déjà des relations avec les chiens. Avec les animaux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de... Ça s'appelle ça, comment ça s'appelle, l'animophilie? Hein? Zoophilie. Vous allez dire, ah, faut pas exagérer. Et si je vous dis, moi, qu'un médecin, il m'a dit que plusieurs fois, il est intervenu parce que la dame, elle avait le chien qui était bloqué. Elle n'arrivait plus à l'enlever. Il fallait faire une piqûre. Et pas une fois! Pas une fois! Et pas que des gens fous, hein! Alors, à Bataille, ça existe. On est dans un monde de pourriture. Ce qu'on te montre, c'est ce qui est visible. Ce qu'on te montre pas. Alors, si déjà ce qu'on te montre, on ose te le montrer, imagine ce qu'on n'ose pas te montrer. C'est pareil, le cas de pédophilie qu'il y a eu là, en Belgique, là. Il y avait un curé dans le groupe. Ouais. Tiens, quand même! Il venait pourquoi? Pour sanctifier le mariage? Ça veut dire quoi, à Bataille? Ça veut dire que le monde, il est pourri. Donc celui qui croit encore dans le monde goy, qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains, il n'y a pas de solution. Exprès. Et s'il est pourri, c'est pourquoi? C'est pour que tu comprennes la pureté de la Torah. Et encore tu nous fais le coup du judaïsme archaïque. Encore tu nous fais le coup, la Torah elle est dépassée. Encore tu nous fais le coup, les religieux ils sont fermés. Mais moi je veux bien, il vaut mieux des fois être fermé que d'être trop ouvert. Regarde ceux-là comment ils sont ouverts. Ah, ils sont blénards, ils sont ouverts. Ils sont trop ouverts. Soyez conscients. Qu'est-ce qui a sauvé les juifs?
pendant 2000 ans, c'est la Torah. Qu'est-ce qui les a sauvés de l'assimilation? C'est le ghetto. Qu'est-ce qui les a empêchés de faire les mariages mixtes? C'est la haine. Les gens, ils prient pour les amitiés judéo-chrétiennes. Mais réfléchissez. En 1800 et quelques, on a ouvert les ghettos. Première génération, ils sortent des ghettos. Deuxième génération, ils rentrent à la fac. Troisième génération, ils épousent la Goya. Et si vous allez me dire, ouais, mais alors, comme ça, ils m'ont dit une fois, un journaliste, il m'a dit, mais enfin, monsieur Manchetrit, vous prenez la ghettoisation. Va d'aille, je prends la ghettoisation. Bien sûr. Il dit, mais vous êtes fou? Bien sûr. Parce que si judéo-chrétienne, ça veut dire bonjour, bonjour. Mais si ça veut dire viens manger à la maison, ça veut dire épouse ma fille. C'est pas possible. C'est que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de milieu. C'est pas possible. C'est comme les amitiés entre filles et garçons. Ça n'existe pas. Puisque si la fille, elle a rien dans la tête, mais le garçon, il a des choses dans la tête. Donc ça veut rien dire, amitié. Toi, tu lui tiens la main. C'est de la poésie. Mais lui, quand il tient la main, il pense à autre chose. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire, l'amitié. Et combien de filles qui sont tombées dans le panneau? Une après l'autre. Oh, mais moi, je suis pas religieuse. Je voyais pas le mal. Mais ceux, tu vois pas le mal. Puisqu'il se voit pas le mal, il est caché à l'intérieur. Ou à trahir à l'intérieur, t'as même pas idée. C'est comme ça. Donc le monde, il est rempli de nia. Une nia. Les nia des judaïsmes éclairés, que d'un seul coup, au bout de trois générations, il y a que des goyim dans leur famille. Les nia des jeunes filles qui se font avoir par le Jimmy, le flambeur. Les nia de l'autre qui croit que la médecine, elle peut tout faire, alors qu'il doit prendre une bracha de son rave avant d'aller voir le docteur. Tous ces nia là, ils plongent un après l'autre. Alors comment quelqu'un, il n'est pas de nia? Parce qu'il a des vrais repères à Botaï. Des vrais repères. Les vrais repères, ils sont marqués dans la Torah. Pour les acquérir, tous les jours, tous les jours. Ça ne sera pas la veille du Mashiach que tu vas venir, tu vas dire, allez, je vais devenir Talmid Chacham. Il va dire, ok. Ça y est. Normalement, à l'entrée des Beta Midrash, il faudrait mettre un grand panneau. Il faudrait marquer en haut du panneau, Mjia. Mjia que tu es venu. Il était temps. Vous comprenez? Donc je vous signale que le Beta Midrash, il existe déjà. Que les cours ont déjà commencé, que vous êtes déjà attendu, que le programme il est déjà fait et que vous devriez déjà être en train de réviser les cours auxquels vous avez assisté la semaine dernière. Donc je vous incite lourdement à vous inscrire avant que le Yitzhara et le Satan ils vous obligent à vous inscrire. Est-ce que vous avez des questions encore?
Oui,
ici. Oui.
Il y a des gens qui se. Il y a des gens qui disent que quelqu'un qui pratique une religion.
Oui.
Oui. Quelqu'un qui pratique le christianisme, donc c'est chrétien.
D'accord.
Il y a un juif,
oui.
C'est aussi sa confession.
Alors?
Mais quelqu'un, un juif qui ne pratique pas le judaïsme,
oui.
il ne peut pas se dire qu'il est juif.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors?
Ben, je veux comprendre, moi, des gens qui se disent.
Ah, moi, tu me demandes?
Oui, je veux comprendre.
Moi, je te dis, moi, c'est très simple. Ils sont tombés exactement dans le piège de Jésus. Jésus, il y a 2000 ans, il a voulu vendre un produit. Quand il a voulu vendre ce produit, les gens lui ont dit c'est un produit qui est trop contraignant. Alors, il a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève? Il a tout enlevé. Il l'a gardé, vous les uns les autres. D'accord? Le samedi, vous le faites le dimanche, vous faites ce que vous voulez. La casserole, tu n'en as pas, tu manges ce que tu veux. T'épouses qui tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux. Donc ils ont fait un produit vendable. Comprenez ou non? C'est pareil. Les gens, ils prennent un judaïsme à leur image. Comme les gens utilisent. Vous savez, bon, moi je suis pratiquant, mais à mon niveau, j'adore cette blague. J'adore. Comment ça? D'après moi. Je pense que c'est pas interdit. Quittez-toi. Pour créer une religion, il faut un dieu. D'accord? Ou un dieu, ou quelqu'un qui se prend pour un dieu, ou un âne. On a eu les trois cas. Oui ou non? Il est venu sur un âne. Il n'est jamais descendu de l'âne. D'accord? C'est pas possible, bravo, taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut un judaïsme édulcoré, ils appellent ça un judaïsme homéopathique. Mais c'est lui qui va le bouffer, son judaïsme. Lui! Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patron de l'église réformiste, enfin de la synagogue réformiste, du judaïsme réformiste aux États-Unis, il a dit, on se rend compte que nos synagogues n'ont plus d'âme. C'est normal, Rabotaï. Quand t'enlèves l'intérieur, il n'y a plus rien. Un corps t'enlève l'échama, il est mort. Donc moi, ces types-là, moi j'ai eu des centaines de discussions avec des gens comme ça. Je dis, mais venez, si vous êtes convaincus, venez me convaincre. Mais Rabotaï, pourquoi il n'y a jamais un tzaddik, jamais un Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sorti des Talmud Torah réformistes? Jamais. Pourquoi? Il n'y a pas de kedusha. Il n'y a pas de Kedusha. Encore une fois, essayez de comprendre. Dieu, il a promis que jusqu'au Machiach, il y aura de la Torah. Il n'a pas promis que jusqu'au Machiach, il y aura des synagogues. Il n'a pas promis Dieu. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des centres communautaires et tout ça. Mais t'es brel. Si tu fais un centre communautaire sans Torah, il sera pas là au Machiach. Dieu, il n'a pas promis qu'il y aurait des synagogues au Machiach. Il n'a pas promis. Donc où tu rentres dans la Torah et ça marche, ou tu n'es pas dedans, et t'es pas dedans, mais c'est pas grave, t'es dans le périphérique. C'est comme les comètes, vous savez, les comètes, elles se déplacent. Il y a le noyau, puis il y a des trucs autour, puis on perd des morceaux. Donc chaque génération, on perd des morceaux. Comme déjà. Donc quelqu'un, on lui dit, écoute, la seule chose qu'on a vue depuis le don de la Torah jusqu'à maintenant, c'est le judaïsme authentique. On a vu que tous les gens qui ont touché une lettre de la Torah, ils ont sauté. Tous. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, le Shabbat, c'est trop. Après, tu dis la cacheroute, c'est trop. Après, tu dis l'étude, c'est trop. Hop, tu te retrouves en Bretagne. C'est fini. C'est incroyable. Incroyable. Combien de fois des gens, ils m'ont dit, mais vous, les religieux, ne vous donnez pas le libre arbitre. Mais c'est toi qui n'as pas le libre arbitre. C'est pas. Parce que moi, si je veux demain, je peux faire une Avera. Mais toi, essaie de faire une Mitzvah. Faut que tu n'as pas le libre arbitre. Essaye de faire une Mitzvah. Tu dis, oh, je peux pas, c'est pas difficile. Je connais pas, je connais rien. Et puis, je suis pas dans un milieu. Je peux pas, je suis dans un milieu patron, je peux pas faire une Mitzvah. Donc, tu vois que tu n'as pas le libre arbitre. Donc toi, tu n'as pas fait la religion sous prétexte de garder le libre-arbitre, mais tu vois que moins tu as le libre-arbitre, et moins tu as le libre-arbitre. C'est ça la Hanan et le Kavod, essaie de comprendre. Encore une fois, la situation n'a pas changé. Nous sommes dans le désert. Nous avons les Hanan et Kavod qui nous protègent. Dehors, il y a Amalek qui nous attend. On mange la manne et on boit de l'eau du puits. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On étudie la Torah. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai pas envie d'étudier la Torah. Et puis moi, Amalek, il me fait pas peur. Et puis les Hanan et Kavod, il me protège pas. C'est ce qu'il fait Hachem. Il dit, dégage. Il sort des Hanan et Kavod. D'accord. Il commence à être avec les patos. Il se marie avec une. Il se retrouve en Bretagne. Son fils s'appelle Christian. Dominique est sultan. Après, il réfléchit. Il dit, mais qu'en est-il de mon identité? Alors, il donne 30 000 francs au KKL. Il va tous les ans pour un voyage initiatique à Masada. Mais il sent qu'à l'intérieur de lui, il est comme un étranger. Parce qu'il manque le principal, mon frère. Le judaïsme, c'est la Torah. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine. Tu dis, mais la culture juive, le folklore juif, la cuisine juive, la cuisine tunisienne, le yiddish, le théâtre yiddish, Woody Allen, Mel Brooks, tout ça, c'est du judaïsme homéopathique, rabotaille. Mais l'essence du judaïsme, quand t'as faim, tu manges un morceau de papier où il y a marqué viande ou tu manges un steak? Eh bien, Woody Allen, c'est un morceau de papier où il y a marqué juif. Et la Torah, c'est un steak. Alors, tu veux du judaïsme? Tu croques dans le steak. Tu dis, non, mais moi, ça me suffit. Vous savez, je suis pas trop pratiquant. Ça me suffit, moi. Ça te suffit? Alors, fais attention, parce qu'un jour, c'est toi qui auras besoin de l'authentique. Et ils viennent chez toi. Le même qui se moquait de la religion, il vient chez toi. Monsieur le rabbin, faites-moi une bracha. Monsieur le rabbin, vous auriez pas une ségoula? Une ségoula? Chocolat? Moi, je connais une ségoula, moi. Les tefilin, le Shabbat, la cachoute, c'est ça la ségoula. C'est ça la ségoula d'Israël, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des trucs. Donnez-moi un truc pour qu'un goy, en 5 minutes, il devienne tzadik. Je connais pas. Les plus vicieux, c'est les gens qui te disent, de toute façon, moi, dans la religion, vous savez, parce qu'au début, tu dis, c'est du bidon. Après, tu parles une heure avec eux, ils te disent, c'est vrai, mais c'est trop dur. Après, tu les pousses encore un peu, tu leur montres que c'est facile, tu dis, bon, vous pouvez faire une petite chose. Il te dit, écoutez, non, moi, chez moi, c'est ou tout ou rien. J'adore celle-là. C'est la dernière étape. Pour ceux qui sont un petit peu plombiers, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on atteint le bouchon. Il te dit, moi, c'est ou tout ou rien. J'adore celle-là. Je lui dis, dis-moi, quand tu dois 30 000 francs à quelqu'un et tu te dis, écoute, rends-moi 100 francs, s'il te répond, c'est tout ou rien, vous savez comment on appelle ça en français? Un voleur. C'est un voleur. Tu me dois 30 000, donne-moi 100 francs tous les mois. Donne-moi 1000 francs tous les mois, donne-moi quelque chose. Il te dit non, c'est ou tout ou rien. Ça veut dire qu'il veut jamais te le rendre. C'est pareil. Toi, t'as une dette envers Akadosh Baruch Hu. T'es un juif, non? T'es un juif. Et la preuve que tu te rappelles que t'as une dette, c'est que toi, hein, tu vas avec un rabbin pour essayer de négocier ta dette. Tu dis, monsieur le rabbin, je vous fais une grosse tzedaka. Vous pouvez prier pour moi. Monsieur le rabbin, si je fais du bien, vous pouvez m'aider. Le rabbin, il te dit, écoute, mon fils, t'as une dette à payer. Tu vas chez ton créancier, tu payes ta dette. Tu mets les tefilines tous les matins, tu payes ta dette. Ta femme elle vaut mikvé, tu payes ta dette. Tu t'habilles ni où, tu payes ta dette. Tu manges cachère, tu payes ta dette. Le type ne veut pas payer la dette. Il veut un arrangement. Il veut renégocier la dette. Tu renégocies la dette? Mais le taux, il est très élevé. le taux de la dette, il est très élevé. On te dit, fais Shabbat tous les jours. Tu dis non. On t'envoie un cancer. Tu dis, oh, voilà, oh. Pourquoi t'as pas fait Shabbat? Parce que tu trouves ça débile. Alors on va te faire une chimio. C'est aussi débile. Alors on fait une shabbatothérapie. Tu dis non. Alors on fait une chimiothérapie. Pourquoi? C'est à quoi ça sert la maladie? À quoi ça sert la maladie? La maladie, ça sert à retrouver le sens de l'essentiel. Parce que quand les gens deviennent de gamins, ils perdent les repères. Alors on les rend malades. Et quand ils rendent malades, ils disent, mais tu sais, j'ai une famille, faut que je pense à moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, tu vois, tu retrouves le sens de l'essentiel. Quand tu es pas malade, tu crois que tu vas vivre 2000 ans. Mais quand le médecin il te reste 3 ans, tu commences à organiser ta vie, tu commences à chercher qu'est-ce qui est important dans la vie. Donc la maladie, ça sert à rendre essentiel. Rabotaille, les gens qui cherchent l'essentiel tout seuls, on n'a pas besoin de les obliger à mettre le doigt dessus. Mais c'est grave. Il y a des gens, malgré qu'on leur met le doigt dessus et on leur envoie la chimio, et encore ils s'entêtent. C'est incroyable. Alors c'est marqué dans la Gemara. D'abord Hachem, il tape sur ton argent. Tu l'écoutes pas, il tape sur tes enfants. Tu l'écoutes pas, il tape sur ton corps. Et même qu'il a tapé déjà sur ton argent. Tu l'as vu, il t'a pris ton argent. Il t'a tapé sur tes enfants. Regarde ce qu'il t'a fait à tes enfants. Regarde les problèmes avec chacun. Tu as des problèmes. Maintenant, il te tape sur toi et encore, tu as la tête dure. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais attention, le rigolade. C'est que ces personnes-là, au fond, c'est des tzadikim. Hein. Ils ont un cœur comme ça. Tu peux aller les voir, leur demander. Ils peuvent t'aider. Ils ont une rahmanout. Ils ont un lève de folie. Au fond, c'est des gens extraordinaires. Mais Rabotaille, Dieu, il en a marre de compter sur ton fond. C'est comme si un type, il est marié avec une femme, et tout le monde lui dit, tu sais, ton mari, au fond, c'est quelqu'un de bien. Alors la femme, elle dit, oui, mais moi, à 58 ans, son fond, il me fatigue un peu. Moi, je voudrais bien voir la réalité, moi, du fond. C'est pareil. Dieu, ça fait 70 ans qu'il t'attend. Tu vas pas lui montrer un peu mieux que le fond? C'est-à-dire, on sait que t'as Yetzera, on sait que c'est pas facile. On sait que tu vis dans un mauvais milieu, on sait que c'est pas évident. On sait que t'as la tête dure, on sait que t'es têtu. Mais on t'a travaillé déjà sur ton têtu. Encore tu fais le lourd. Qu'est-ce que je te dis? Presque que le Kretschema. Oui, oui.
Parole pour Chaim Yosef Citruc.
Oui. Ah, on demande que ce cours il soit dédié pour une réfoua chez les mains du Rav Yosef Chaim Ben Simcha Citruc.